Europe 1.
Nous sommes le mardi 16 avril, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h-9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une, Israël promet de répondre à l'attaque iranienne, l'agression de Téhéran, une menace pour la paix mondiale, assure le Premier ministre israélien. À Tel Aviv, on apprend à vivre avec le risque d'un embrasement généralisé. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 dès le début de ce journal. Wambushu, saison 2, lancement d'une nouvelle opération anticlandestin à Mayotte. La ministre déléguée aux Outre-mer est attendue sur place dans la journée. En Australie, l'attaque au couteau d'un religieux près de Sydney, qualifié d'acte terroriste par la police. L'assaillant est un ado de 16 ans, il a été interpellé. Et dans ce journal également, nous parlons de la première journée mouvementée du procès de Donald Trump et de l'allumage de la flamme olympique, enfin à 101 jours de la cérémonie d'ouverture.
Europe 1.
Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Israël va répondre à l'attaque de l'Iran. C'est la seule certitude ce matin, alors qu'un troisième cabinet de guerre est prévu aujourd'hui. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pris en étau entre deux options, frapper vite et fort ou attendre et opter pour la frappe modérée. À Tel Aviv, comme dans le reste du pays, le quotidien semble avoir repris le dessus entre crainte et résignation. Reportage Wilfried De Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.
À l'entrée du marché Carmel, les terrasses des cafés sont bondées, panier à la main, Jeanne rentre de la plage. La menace iranienne, un spectre omniprésent, mais qui ne l'effraie plus depuis longtemps.
L'Iran, c'est une rengaine de décennie en décennie. Ils ont fait un coup d'éclat, heureusement qu'il y avait le dôme de fer. La veille, on était paniqués, terrés dans nos miclates, le lendemain, on a été bouffés à la plage.
Derrière cette décontraction de façade, il y a aussi une confiance de plus en plus forte dans le système de défense israélien, relève Samuel.
Il y a eu des centaines, voire des milliers de missiles qui ont été tirés depuis Gaza, qui sans ces mécanismes de défense auraient causé des dégâts massifs. Donc cette confiance-là s'applique également pour la menace iranienne aujourd'hui.
Un peu plus loin dans la rue, Noya et son compagnon prennent un selfie au pied d'un immeuble style Bauhaus. Depuis 6 mois, ils ont appris à vivre en guerre.
On est en guerre depuis le mois d'octobre, on s'y est vraiment habitué, mais il faut que ça se termine. Le fait que ça nous paraisse normal, c'est ça qui est anormal. Je pense que tout le monde veut la paix désormais.
La jeune femme espère désormais une chose, que les sirènes d'alerte se taisent définitivement. Tel Aviv, Wilfried De Villers, Europe 1.
Et les États-Unis et leurs alliés martèlent toujours le même message à l'intention d'Israël. Pas d'escalade, sauf à vouloir déboucher sur un conflit généralisé, incontrôlable. L'impact économique pourrait être lourd, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il l'est déjà dans le détroit d'Ormuz. Trafic maritime ralenti par les attaques répétées des Houthis armés et soutenus par Téhéran. Baptiste Morin.
Samedi dernier, quelques heures avant l'attaque, un porte-conteneur d'une société israélienne était intercepté par les gardiens de la Révolution dans le détroit d'Ormuz. Preuve de plus que c'est Téhéran qui contrôle la zone et c'est bien ce qui fait craindre des répercussions économiques car 20% de la consommation mondiale de pétrole transite par ce détroit comme l'explique Radwan Abdoun, professeur en finance à la Cage Business School.
Ce détroit joue un rôle déterminant pour assurer la sécurité énergétique mondiale. Les flux transitant par le détroit d'Ormuz représentent environ un tiers du total du pétrole transporté par voie maritime dans le monde et un quart du commerce mondial de gaz naturel liquéfié.
Émirats, Irak, Koweït, Qatar et surtout Arabie Saoudite, aucun des pays côtiers du détroit d'Ormuz n'a intérêt à voir la situation s'envenimer. Sylvain Bersinger est le chef économiste du cabinet Asterès.
Personne ne veut que la situation dérape. Les Américains ne le veulent pas, les Européens ne le veulent pas, les Chinois ne le veulent pas. L'Arabie Saoudite et les pays du Golfe n'ont pas envie d'une guerre à leur porte qui pourrait les toucher. Donc en fait, la plupart des grands acteurs n'ont pas envie que la situation dérape.
Et pour l'instant, la situation est stable. Le cours du baril restait hier en dessous des 90 dollars.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.
En Australie, à présent, la colère et l'inquiétude après l'attaque terroriste hier dans une église de la banlieue de Sydney.
Vous n'avez pas l'image, mais vous avez le son de l'agression. Un évêque assyrien frappé de plusieurs coups de couteau en pleine messe. Le suspect, un adolescent de 16 ans, rapidement maîtrisé et interpellé. Colère de la foule massée à l'extérieur de l'église, prête à se faire justice elle-même. Le Premier ministre australien Anthony Albanese s'est exprimé hier soir pour condamner l'agression et ramener le calme.
Il s'agit d'un incident inquiétant. La violence n'a pas sa place dans notre communauté. L'extrémisme violent n'a pas sa place. Nous sommes une nation pacifique. Le moment est venu de s'unir et non de se diviser en tant que communauté et en tant que pays. La police de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré dans la nuit qu'il s'agissait d'un incident terroriste et a mis en place une force d'intervention spécifique. À la suite de cette déclaration, un groupe de travail antiterroriste conjoint a été mis en place, comprenant la police fédérale et les services de renseignement.
Le Premier ministre australien hier soir, cette attaque au couteau survient au surlendemain d'une autre du même type dans un centre commercial de Sydney. 6 morts, dont l'agresseur, cette fois le mobile terroriste, n'a pas été retenu.
Il est 7h05 sur Europe 1. Premier jour de procès pour Donald Trump. Hier, l'ancien président des États-Unis est passé tout de suite à l'offensive.
Ah oui, là, le ton a été donné dès son arrivée au tribunal de Manhattan. Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières.
C'est une affaire qui n'aurait jamais dû être intentée. C'est une attaque contre l'Amérique. C'est pourquoi je suis très fier d'être ici. C'est une attaque contre notre pays et c'est un pays qui échoue. C'est un pays dirigé par un homme incompétent qui est très impliqué dans cette affaire. Il s'agit en fait d'une attaque contre un adversaire politique. C'est tout ce que c'est.
Donald Trump virulent, Donald Trump accusé d'avoir maquillé les comptes de son entreprise pour cacher l'achat du silence de l'ex-actrice porno Stormy Daniels. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Le procès reprend ce matin avec, comme toujours, la sélection des jurés.
Au départ, il y avait une manœuvre frauduleuse pour maquiller les paiements destinés à acheter le silence d'une actrice de film X qui menaçait de faire des déclarations scabreuses sur Donald Trump pendant la campagne de 2016. C'est un simple délit, mais le procureur l'a fait entrer dans le champ de la justice pénale en avançant que la dissimulation de ces révélations avait pour but d'influencer l'élection présidentielle. Pendant des débats qui vont durer plusieurs semaines, il devra en convaincre les 12 jurés, car le verdict doit être unanime. Il a pour cela un atout en la personne de l'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, qui a négocié une réduction de peine en échange d'un témoignage à charge contre son ex-client. Si Donald Trump était reconnu coupable d'interférence dans une élection, il risquerait une peine de prison allant jusqu'à 20 ans. C'est une issue improbable, mais toujours possible. Aux États-Unis, les procès avec un jury populaire et les sentences qui en découlent sont imprévisibles.
Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Une deuxième opération Wambushu place nette contre l'immigration clandestine et les violences à Mayotte. C'est normalement en ce moment même que plusieurs centaines de policiers et gendarmes doivent être mobilisés, ainsi que deux vedettes de l'armée. Conférence de presse de la ministre déléguée chargée des Outre-mer prévue ce matin.
Et à 101 jours de la cérémonie d'ouverture, la flamme olympique va entamer aujourd'hui le périple qui doit la conduire jusqu'à Paris le 26 juillet.
Allumage prévu à 10h30 à Olympie en Grèce. Premier porteur, le champion olympique grec d'aviron Stéphanos Douskos, moment symbolique dans un lieu qu'il est tout autant. Bruno Cuaz, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Grèce.
Oui, devant moi ce stade à l'histoire interminable de 2800 ans, une piste rectangulaire de 200 mètres de long sur 30 mètres de large, des talus herbeux sur lesquels s'entassaient les spectateurs, la place des juges est encore visible, les cavités où les athlètes déposaient leurs vêtements également, parce qu'à l'époque ils concouraient entièrement nus. Et c'est dans ce décor que tout à l'heure, l'actrice grecque Marie Mina incarnera la grande prêtresse qui récupère le feu devant le temple d'Héra grâce à la réverbération du soleil dans un miroir. Et aux commandes de la cérémonie, Nikos Aliagas.
Être aujourd'hui en Grèce, qui est le pays de mes parents, qui est aussi le mien, mon ADN intime, fait aussi que j'ai une responsabilité, une reconnaissance, une gratitude vis-à-vis de la France.
Le premier relayeur sera le rameur grec Stéphanos Douskos, qui transmettra le flambeau à Laure Manaudou, championne olympique à Athènes il y a 20 ans. Et après un voyage en Grèce, la flamme prendra la mer le 27 avril à bord du voilier historique français le Belém, avant de rallier Marseille le 8 mai pour entamer son tour de France.
Bruno Cuaz, correspondant d'Europe 1 en Grèce, arrivé à Marseille le 8 mai. Après 12 jours de traversée, 10 000 Français se relaieront jusqu'à Paris le 26 juillet. Le nom du dernier porteur restera bien sûr un mystère, tout comme l'auteur du vol de l'ordinateur d'une employée de Thalès qui renfermerait des données sensibles, informations qu'Europe 1 vous révélait hier. Et puis le feu, bah tiens, c'est ce que va tenter d'allumer le Paris Saint-Germain ce soir face à Barcelone au stade Montjuïc. Quart de finale retour de la Ligue des Champions. Les Parisiens battus 3-2 à l'aller. Coup d'envoi à 21h. Autre quart de finale retour. Borussia Dortmund, Atlético Madrid à la même heure.
Oui, on en parlera de ces chances parisiennes de se qualifier ou non pour la demi-finale de la Ligue des Champions tout à l'heure dans le journal de 8h. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito Écho.
On va parler de la simplification de la fiche de paie qui doit être, faire l'objet d'un projet de loi la semaine prochaine. Le gouvernement, Nicolas Bouzou est assez sceptique. On en parlera juste après le premier invité actuel d'Europe 1 Matin. À 15h, l'hommage d'Emmanuel Macron à la résistance des Maquisards dans le Vercors. Nous serons en ligne avec le directeur du musée départemental de la résistance du Vercors à Vassieux en Vercors. A tout de suite.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur du musée de la résistance à Vassieux en Vercors.
Bonjour Pierre-Louis Filet.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes le directeur du musée départemental de la résistance du Vercors à Vassieux en Vercors et vous allez recevoir ce jour un hôte de marque, hein, Pierre-Louis Filet, puisqu'il s'agit du président de la République en personne, Emmanuel Macron, qui a lancé la semaine dernière, hein, sur le plateau des Glières le cycle des commémorations du 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 44. Alors là, il se retrouve dans le Vercors, chez vous. Pierre-Louis Filet, racontez-nous ce matin sur Europe 1 le maquis du Vercors. On va parler d'Emmanuel Macron juste après, mais d'abord ce maquis. Qu'est-ce qui se passe le 16 avril 1944, donc il y a pile 80 ans, cette date que le président vient commémorer ce jour chez vous ?
Alors peut-être faut-il tout d'abord rappeler quelques éléments s'agissant du Vercors résistant. Quand on évoque le Vercors résistant, ce sont trois moments distincts de l'histoire du massif. C'est d'abord le maquis, puis la zone libérée, puis les combats. La première période, c'est donc le maquis, c'est la création de camps de maquisards dans le Vercors au début de l'année 1943 pour accueillir des pourchassés et des réfractaires au STO dans un contexte où la pression de l'occupant allemande se fait croissante. Et en parallèle de la création des maquis, un homme, Pierre Dalloz, imagine une utilisation stratégique du massif du Vercors qui serait destinée à accueillir, dans le cadre d'un débarquement en Méditerranée, une opération alliée aéroportée.
Je précise, hein, pour les auditeurs qui ne situeraient pas le Vercors, on est au sud de Grenoble, hein, et c'est actuellement aujourd'hui un parc naturel régional. C'est une zone très sauvage, pas facile d'accès. Hein.
Effectivement, alors le massif est occupé en tant que tel, hein, depuis fort longtemps, mais néanmoins, la configuration géomorphologique du massif lui donne l'image de forteresse. Et Pierre Dalloz, dans son projet Montagnard, parle effectivement de forteresse du Vercors. Et donc, c'est cet imaginaire qui va aussi nourrir l'esprit du projet Montagnard. Et donc, ces deux initiatives, la création des camps et le projet Montagnard, fusionnent. Et pendant un an et demi, on a environ entre 300 et 400 hommes qui vivent en permanence, donc dans des camps, en pleine forêt. Et donc ça, c'est la première période dite du maquis.
Quand vous parlez des camps, on est bien d'accord, ce sont des camps de base, ce sont des camps militaires, hein, ce ne sont pas des camps de prisonniers ou je ne sais quoi d'autre. Hein.
Absolument pas, ce sont des camps de maquisards, en effet, qui vivent en pleine forêt et qui ont des relations assez régulières avec les habitants des différents villages. Et c'est d'ailleurs, pour en venir à l'objet de votre question, la raison pour laquelle la milice conduit une opération, donc à Vassieux en Vercors, à partir du 16 avril 1944 jusqu'au 23 avril 1944. Les occupants allemands et le régime de Vichy savent bien que l'existence d'un maquis dans le Vercors n'est rendue possible que grâce au concours des populations civiles. Et l'objectif donc de cette opération de la milice est à la fois évidemment de tenter de débusquer des résistants, mais également de faire prendre conscience aux habitants du Vercors que soutenir d'une façon ou d'une autre l'existence de camps de maquisards, c'est évidemment s'exposer aussi à des risques extrêmement violents de représailles. Donc c'est l'optique dans laquelle cette opération de la milice à Vassieux est conduite, donc à compter du 16 avril 1944, opération qui se solde par trois exécutions.
Alors, sans vous faire injure, Pierre-Louis Filet, ainsi qu'à Vassieux en Vercors, il se trouve que la commune n'est pas très connue, elle n'a pas été retenue finalement par la mémoire nationale, alors que quand même, il faut le signaler, Vassieux fait partie des quelques communes qui ont été élevées au rang de compagnons de la libération par le général de Gaulle. Comment vous expliquez un petit peu ce trou de mémoire français vis-à-vis de Vassieux en Vercors ?
Alors, peut-être que la commune de Vassieux en tant que telle n'est pas connue. Par contre, le Vercors en général figure en bonne place dans le panthéon de la mémoire nationale et dans la mémoire collective de la résistance française, et notamment par rapport à ce qui se passe durant la période. Alors, j'évoquais précédemment le maquis, qui est la première période du Vercors résistant. Il y a une deuxième période extrêmement importante dans l'histoire du Vercors résistant. C'est la période qui s'ouvre à compter du 6 juin 1944 et qui s'achève donc le 21 juillet 1944. C'est la période pendant laquelle les effectifs du maquis du Vercors explosent, hein, puisqu'on atteint quasiment 4000 maquisards, là où quelques semaines plus tôt, 400 seulement étaient dénombrés. Donc un contexte d'euphorie, d'effervescence. On a le sentiment que la libération est proche et nombre d'hommes de la région souhaitent y participer. Et dans ce contexte euphorique, la République française est restaurée. Tous les accès au massif sont contrôlés. Le massif est ainsi aux mains de la résistance. Et il y a une autre date extrêmement importante qui souligne le rôle de Vassieux dans ce dispositif. C'est ce qui se passe le 14 juillet 1944. On est en plein jour. Alors évidemment, la fête nationale va être commémorée, mais surtout, à Vassieux, le plus important parachutage d'armes alliées survient en plein jour. C'est plusieurs tonnes d'armes qui sont larguées sur la commune de Vassieux. Donc c'est effectivement quelque chose de tout à fait important dans l'histoire du Vercors, avec néanmoins, dans la foulée, une réaction extrêmement vive des Allemands, puisque le village de Vassieux va être, dès le 14 juillet après-midi, intensément bombardé, et ce qui donne un signal assez inquiétant sur le fait que les Allemands ont en effet à l'esprit le rôle que joue Vassieux dans le dispositif du Vercors résistant.
Alors, vous êtes Pierre-Louis Filet, donc le directeur du musée départemental de la résistance du Vercors. Vous êtes un jeune directeur, hein, parce que vous n'avez pas connu ces événements historiques. Y a-t-il encore des combattants de cette époque-là en vie, Pierre-Louis Filet? En avez-vous rencontré? J'imagine que oui, dans votre jeunesse peut-être.
Alors j'ai effectivement eu le plaisir de connaître un certain nombre de ces anciens résistants qui malheureusement ont pour la plupart disparu. Il en reste quelques-uns, je m'en cite au moins deux, Marc Serratrice qui a plus de 100 ans et Daniel Huillier qui est le président de l'Association nationale des pionniers et combattants volontaires du Vercors, la grande association qui a été créée après-guerre pour fédérer l'ensemble des anciens résistants du massif.
Ils seront là pour la venue du président demain ?
Alors le président Huillier sera effectivement présent lors de la présence présidentielle aujourd'hui à Vassieux.
Merci beaucoup Pierre-Louis Filet d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 ce matin. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
Il est 7h18, très bon début de journée avec Europe 1. Dans un instant, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives.
Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour à tous.
Alors, quel 16 avril allons-nous revivre ce matin?
Un immense succès au cinéma, le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » sorti en 2014.
Allez, à tout de suite sur Europe 1. Dans un instant, l'édito écho.
7h-9h, Europe 1 matin.
Il est 7h19 sur Europe 1, l'édito écho.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa,
bonjour
à tous.
Nicolas.
Nicolas, le gouvernement veut simplifier le bulletin de salaire. Vous y voyez de l'enfumage. Pourquoi ?
Oui, absolument. Je vous ai déjà parlé des rencontres de la simplification qui sont organisées par Bercy. Alors, c'est une bonne idée et un bon principe sur le papier. Bercy écoute les acteurs du monde économique, leur demande quelles normes il faudrait supprimer pour leur simplifier la vie. Et ça doit déboucher sur un projet de loi de simplification qui serait présenté en Conseil des ministres très bientôt, probablement la semaine prochaine. Alors, où en est-on ? Les Échos, le journal Les Échos, a pu consulter le document envoyé au Conseil d'État. Parmi les mesures les plus emblématiques, il devrait y avoir la suppression d'un certain nombre de formulaires administratifs. Vous savez, Dimitri, les fameux CERFA, bon, on ne va pas s'en plaindre. La dépénalisation d'un certain nombre de délits aussi. Alors ça, c'est indispensable. Je dirige moi-même une petite entreprise. À chaque fois que vous remplissez mal un formulaire, ou pire, que vous oubliez d'en remplir un, vous êtes menacé de prison, c'est délirant. Et puis, il y aura en effet dans ce projet de loi la simplification de la feuille de paie qui devrait passer de 55 à 35 lignes.
Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle ça, non Nicolas ?
Écoutez, franchement, on s'en fout complètement, pardonnez-moi, mais regardons comment ça se passe dans le monde réel. Soit ce sont les experts comptables qui font les bulletins de salaire pour le compte des PME. Est-ce qu'ils vont baisser leur prix après cet acte de simplification ? J'ai peur que non. Soit pour les toutes petites entreprises, ce sont des logiciels qui font le travail. Est-ce qu'ils vont coûter moins cher ? Ah non, bien évidemment. D'ailleurs, les éditeurs de logiciels auront jusqu'à 2027 pour s'adapter. Ça va, on ne leur met pas une pression de dingue. Le fond du sujet, c'est qu'il ne s'agit pas d'un acte de simplification de la vie des entreprises, mais de simplification de la présentation du bulletin de salaire. C'est donc un acte, non pas de simplification, mais de camouflage de la complexité. Les 55 lignes du bulletin de salaire feront l'objet d'un nouveau découpage. Franchement, la belle affaire.
Bon, les rencontres de la simplification qui ont présidé à l'élaboration de ce projet de loi, vous trouvez que ça fait pchit finalement ?
Ah oui, mais je déconseille au gouvernement que ça fasse pchit, justement. Le choc de simplification de François Hollande il y a 10 ans n'avait rien donné. Tout le monde se souvient du fait que ça n'avait rien donné. La politique économique de l'actuel gouvernement a perdu une partie de sa crédibilité en raison du dérapage des déficits publics. Si le gouvernement loupe cette étape avec une loi décevante, sa parole sera complètement démonétisée dans le domaine économique. Franchement, je lui conseille même de prendre une semaine de plus pour approfondir son projet et opérer une vraie simplification, pas un camouflage maladroit de la complexité.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas.
À demain.
Europe 1.
Pour faire le point sur l'actualité en fin de journée, rendez-vous sur Europe 1 dès 18h.
Oui, Laurence Ferrari vous propose une heure d'info, de débat, d'analyse et de décryptage avec ses invités. Punchline, c'est du lundi au vendredi de 18h à 19h. 19h sur Europe 1 et CNews.
Allez, dans un instant, rendez-vous avec les archives et l'ordre d'Autriche. Juste après, le journal permanent sur Europe 1, Christophe Lamarre.
Le lancement d'une nouvelle opération Wambushu Place Net contre l'insécurité et l'immigration clandestine à Mayotte. 400 policiers et gendarmes déployés. La ministre déléguée aux Outre-mer attendue sur place aujourd'hui. Elle doit tenir une conférence de presse dans la matinée. On s'approche dangereusement d'un accident nucléaire à Zaporijjia. Déclaration du chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La centrale ukrainienne cible de multiples attaques de drones ces derniers jours. Moscou et Kiev s'en rejettent la responsabilité. Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain acquit tout double ce soir face à Barcelone. Les Parisiens restent sur une défaite 3-2 à l'aller.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Il y a 10 ans, le 16 avril 2014, sortait sur nos écrans un grand succès du cinéma français. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec, à l'affiche entre autres, Christian Clavier et Chantal Lobby. 12 millions d'entrées lors d'Autriche.
Hein. Oui, une famille catholique se désespère de voir ses quatre filles épouser des hommes issus de toutes les communautés. Un musulman, un juif, un chinois. Alors quand la quatrième leur annonce qu'elle va épouser un bon catholique, alléluia! Sauf qu'il est d'origine ivoirienne et qu'il est noir.
On évite tous les sujets qui fâchent. Hein. Israël, le Dalai Lama, la burqa.
Il y aura Jackie Chan et Arafat.
Il y aura Kadhafi, Enrico Macias.
Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek.
Surtout. Pas un mot sur l'équipe de France de foot.
C'est un film sur les préjugés. Les Verneuil, joués par Christian Clavier et Chantal Lobby, se défendent d'être racistes. On aime l'humour juif, on est fan de Louis de Funès, disent-ils. Écoutez Chantal Lobby et Christian Clavier sur Europe 1 en 2014.
On n'arrête pas la blague sur les juifs et tout. On les connaît toutes, ces blagues. Ça fait partie de notre univers, de notre culture et pour tout le monde.
Et c'est évidemment un défouloir pour le public, puisqu'ils disent ce qu'on ne devrait pas dire, mais en même temps qu'on pense ou qu'on a tort de penser. Le fait de pouvoir le dire dedans fait probablement progresser les choses, c'est ça qui est amusant.
Chaque fois que j'entends la Marseillaise, j'ai des frissons.
Ah oui ? On me fait marcher.
Des dialogues ciselés, des répliques qui fusent, c'est aussi sans doute un des ingrédients du succès. Le réalisateur Philippe de Chauvron ne voulait aucune censure.
J'ai dit voilà, si on commence à censurer, ça va être le film va pas être bon. Lâchons-nous, à partir du moment où c'est drôle et respectueux, tout passera. C'est, moi, c'était ma conviction et c'est ce qui s'est passé après, puisque justement, toutes les communautés ont vraiment défendu le film.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude ?
Et le film dépasse largement les frontières de la France. En Espagne, le film cartonne dans ce pays qui, à l'époque, va moins au cinéma à cause de la crise. Le titre, Dios mío, que te hemos hecho.
C'est très drôle, ce type d'humour fait du bien en ce moment.
L'humour espagnol est un peu différent, alors que l'humour français est plus fin, plus intelligent.
Ce film est universel. L'histoire pourra avoir lieu n'importe où, en France ou ici, en Espagne. Ce sont des sujets très délicats. Franchement, ce film fait réfléchir.
Une suite du film sort en 2019. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Et il fera plus de 6 millions d'entrées au cinéma.
Merci, Lord Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et Le Jour où.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Et toute cette semaine, Europe 1 vous offre un magnifique cadeau, que dis-je, un séjour de rêve en Corse. Vous séjournerez 3 nuits dans le sublime hôtel 4 étoiles, le Pinarello, face à la mer de Pinarello, au sud de la Corse. C'est tout à côté de Porto Vecchio. L'hôtel est posé directement sur la plage de Pinarello, des terrasses privatives, une piscine incroyable à couper le souffle, un spa, une baie turquoise. Vous pouvez déjà découvrir votre futur voyage peut-être sur le pinarello.com.
Alors la question du jour, la voici. Quel célèbre acteur incarne le père de la famille Verneuil dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Était-ce Cadmerade ou bien Christian Clavier ?
Pour tenter votre chance et peut-être préparer vos valises direction la Corse, vous envoyez Corse ce matin par SMS au 739-21, 2 fois 75 centimes plus que du SMS. Tirage au sort vendredi. Bonne chance à tous. Je vous rappelle qu'à 8h10, Georges Bensoussan est l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
L'historien spécialiste du conflit israélo-arabe, faudrait-il ajouter israélo-iranien ? Alors est-ce que Tsahal va frapper en Iran après l'attaque de dimanche, sachant que l'armée israélienne a déjà fort à faire à Gaza ? Rendez-vous dans 3 quarts.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Le temps, Anissa Haddadi, nous avons des températures qui ne cessent de dégringoler.
Ah oui, alors déjà hier, il ne faisait pas chaud, mais alors aujourd'hui, c'est encore pire. Alors ce matin, on a seulement 4 degrés à Charleville-Mézières et Nancy, 5 à 3 Chartres et Belfort, 7 degrés pour Paris, 9 à Lyon, Brest, Grenoble et Cherbourg, 10 à Toulouse, 12 pour Avignon et 15 à Nice. Ça, c'est pour ce matin. Et alors cet après-midi,
ça baisse encore plus qu'hier. Seulement 10 degrés à Belfort. Cet après-midi, 10 à Dijon et Saint-Étienne, 14 degrés à Paris, Toulouse, Lyon et Clermont-Ferrand, 16 à Angoulême, 18 à Marseille, hein, moins 6 degrés dans la cité phocéenne, 22 à Nice et 23 à Bastia. Dans le ciel, c'est très agité partout. On a des nuages sur l'ensemble des régions. Seul le pourtour méditerranéen aura le droit au soleil, mais avec du très fort vent, Mistral et Tramontagne jusqu'à 90 km/h aujourd'hui. Et c'est le retour aujourd'hui de la neige en montagne à partir de 1000 mètres sur tous les sommets.
Eh bien, voyez-vous ça. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Bon réveil à vous en ce mardi 16 avril. Il est 7h30.
Europe 1 matin. 7h-9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, l'affiche polémique de la France insoumise, l'affiche de cette conférence prévue jeudi à Lille en présence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan, la militante franco-palestinienne sur la liste LFI des européennes. Juste à côté du logo LFI, celui du groupe Free Palestine qui prône l'éradication de l'État d'Israël. Nous allons vous en parler dans un instant. Les parents doivent tenir leurs gosses, c'est ce qu'avait déclaré le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti après les émeutes de l'été dernier. Justement, un projet de loi sur la responsabilité parentale est en préparation pour lutter contre la délinquance des mineurs. On va en parler aussi. Et puis ce camping au grand cœur dans le Gard, 30 familles sinistrées par les inondations du Pas-de-Calais ont gagné une semaine de vacances dans le sud de la France lors d'un loto. Europe 1 était présent.
Europe 1.
Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France insoumise crée une nouvelle fois la polémique sur ses prises de position concernant la Palestine. Précisément, c'est l'affiche pour une conférence prévue ce jeudi à Lille. Jean-Luc Mélenchon, accompagné de la juriste franco-palestinienne et militante Rima Hassan, à côté du logo de la France insoumise, celui du groupe Free Palestine, qui défend le rétablissement de la Palestine avant la résolution de 1948. C'est-à-dire d'effacer Israël de la carte. Alexis de la Fontaine, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, se mobilise pour faire interdire cette conférence.
Hors de question pour Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, que le leader insoumis vienne attiser la haine dans sa région.
Cette conférence, elle ne peut pas avoir lieu. Vous avez M. Mélenchon qui va venir tenir une conférence organisée, tenez-vous bien, par Libre Palestine, et avec un logo qui est la négation de l'existence d'Israël dans ses frontières de 1948. Non mais au bout d'un moment, il faut quand même se réveiller quoi.
Xavier Bertrand demande donc au préfet du Nord et à l'université de Lille d'interdire cette conférence, car il redoute des dérapages antisémites de la part de la France insoumise, une crainte partagée par le Rassemblement National et Renaissance. La députée macroniste Violette Spilbou accuse même Jean-Luc Mélenchon d'être, je cite, « la représentation de l'antisémitisme le plus violent » et de vouloir détruire Israël. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise par le préfet ou l'université. Et de son côté, la France insoumise se protège derrière la liberté d'expression, une parade qui permet à Jean-Luc Mélenchon de continuer à essayer de s'attirer les voix des banlieues.
Alexis de la Fontaine, la question palestinienne que compte défendre la France insoumise aux élections européennes de juin prochain sera également portée par une nouvelle liste qui doit être présentée en mai prochain, le Free Palestine Party. Son objectif, je cite, « lutter contre la contamination des idées d'extrême droite visant les citoyens de confession musulmane en Europe ».
7h33 sur Europe 1. Comment endiguer la délinquance des jeunes qui explosent en France ? Il faut redire aux parents qu'ils tiennent leurs gosses, avait été la réplique choc d'Éric Dupond-Moretti lors des émeutes l'été dernier. Émeutes au cours desquelles un tiers des mises en cause étaient des mineurs.
Et justement, le gouvernement prépare un nouveau projet de loi pour l'été sur la responsabilité parentale. Le journal L'Opinion en a dévoilé les premières mesures. Alexandre Chauveau, ce texte très attendu devrait contenir deux volets, l'un pour les parents, l'autre pour les mineurs.
Premier volet, la responsabilité parentale. Le ministre de la Justice souhaite ainsi renforcer un article de loi déjà existant qui vise à sanctionner les parents se soustrayant à leurs obligations légales envers leur enfant. La peine encourue, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, pourrait être durcie et complétée par une peine de travaux d'intérêt général. Le père et la mère seront également tenus responsables à part égale, et ce, même s'ils ne vivent plus ensemble. Côté justice des mineurs, le projet de loi devrait prévoir le renforcement des contrôles judiciaires avec par exemple un accueil de nuit obligatoire pour les jeunes délinquants dans des établissements dédiés. En cas de manquement, ils pourraient être envoyés en centre éducatif fermé ou en détention. L'objectif, sortir le jeune de son quartier avant qu'il ne s'ancre dans la délinquance. Le reste des mesures est toujours en discussion et devrait susciter de vifs débats à l'Assemblée. Parmi elles, l'abaissement de la majorité pénale, la suspension des allocations familiales pour les parents d'enfants délinquants, ou la suppression de l'excuse de minorité.
Alexandre Chauveau, en Alsace, un policier toujours hospitalisé ce matin après avoir été blessé lors d'un rodéo urbain à Schiltigheim dans le Bas-Rhin. L'agent a été délibérément visé par un mineur de 17 ans qui lui a foncé dessus avant d'être interpellé. Il circulait sur un motocross non homologué. À Mayotte, une deuxième opération Wambushu devrait être lancée ce matin. Objectif, déloger les migrants irréguliers des bidonvilles et arrêter plusieurs chefs de gangs identifiés par les services de police. La ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, est attendue sur place ce matin.
Et nous partons à Tarbes, où un conflit s'éternise entre le patron d'une chaîne de restaurants et des gens du voyage installés sur son parking.
3 ans que cela dure depuis 2021 et à intervalles réguliers, les caravanes s'installent sur le parking du restaurant KFC de Tarbes. Incivilité, invective, les clients ont peur, les employés aussi. La municipalité tarde à réagir. Le reportage de Charles Lhuillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
Une quinzaine de caravanes sur le parking du restaurant, mais surtout des salariés apeurés désormais. La semaine dernière, la manageuse a été agressée. Une 5e plainte en 3 ans a donc été déposée. La foi de trop pour Roger, employé.
Ils ont agressé une salariée qui voulait juste refermer le portique de sécurité. Donc elle a été traînée par le bras, au sol, etc.
Insécurité également lorsque ces gens du voyage se mettent à chasser dans les temps qui jouxtent le restaurant.
On a eu de la chasse aux ragondins dans les temps, avec une carabine à plomb.
Une activité qui n'est pas la seule nuisance.
Le soir, c'est des gens éméchés sur le parking qui importunent les clients. Donc, il nous manque des places de parking. Donc, moins 20% de chiffre d'affaires.
Un manège qui, en effet, effraie les clients.
Ils avaient mis une piscine gonflable sur le parking. J'ai l'impression qu'ils sont au-dessus des lois.
On n'est plus chez nous. Ces gens n'ont pas agressé comme ça gratuitement. Voilà. Puis, que fait la mairie ?
Une mairie qui, effectivement, serait compétente pour l'octroi d'un terrain, mais qui, pour l'instant, se refuse à toute déclaration. À Tarbes, Charles Lhuillier, Europe 1.
Une loterie à présent pour réchauffer les cœurs. Un camping du Gard offre une semaine de vacances à des familles sinistrées par les inondations du Pas-de-Calais. Une semaine loin de leur quotidien cauchemardesque. 30 familles des victimes des inondations de Blandec seront accueillies début juillet dans des mobil-homes tout confort. Le tirage au sort pour les heureux gagnants a eu lieu hier soir à la mairie. Europe 1 était présent. Le reportage de Lionel Gougelot.
Le visage de Margie s'éclaire quand son numéro est tiré au sort par l'adjointe au maire. Une semaine de vacances offerte au pied des Cévennes. Après avoir vécu l'enfer des inondations, elle en profitera avec sa nièce et son neveu.
Au soleil déjà, essayer d'oublier tout ça, changer un peu d'air, penser à autre chose. En espérant qu'on a le soleil, parce que la pluie, on en a marre.
Cette invitation, c'est un geste solidaire des responsables d'un camping d'Anduz dans le Gard, eux-mêmes victimes d'une inondation en 2020 qui l'ont lancé. Émilie Dubois, adjointe au maire de Blandec.
Ils ont été touchés par notre malheur. Ils avaient déjà tout perdu, donc forcément, ils savent ce qu'on traverse. Ils ont fait ce très beau geste, parce que là, c'est quand même 30 familles qui vont partir une semaine en pensant à autre chose.
Comme celle de Frédéric, qui a du mal à cacher son émotion, lui qui n'a toujours pas pu réintégrer son logement dévasté par les eaux.
Ma fille a beaucoup souffert suite à l'inondation. Elle a un traumatisme psychologique, elle ne veut plus revenir à la maison. Donc, papa va revenir avec une bonne nouvelle ce soir, et pour les enfants, une petite lueur de soleil quand même, ça fait du bien.
D'ailleurs, à la mairie, on espère que cette initiative donnera des idées à d'autres campings ou centres de vacances en France. À Blandec, Lionel Gougelot, Europe 1.
Dans l'actualité également, c'est le jour J. La flamme olympique sera allumée aujourd'hui sur le site antique d'Olympie en Grèce. Après une tournée dans le Péloponnèse, elle sera transmise par l'athlète Stéphanos Douskos à Laure Manoudou, qui sera la première relayeuse française. Elle avait d'ailleurs été championne olympique en or aux 400 mètres nage libre en 2004 à Athènes justement. Et la flamme doit arriver par la mer à Marseille le 8 mai prochain.
Voilà, à bord du Belém notamment. Hein.
Exactement, le fameux 3-mâts. Et puis en mot de football, ce soir le PSG joue sa qualification pour la suite de la Ligue des Champions. Les Parisiens affrontent le FC Barcelone en quart de finale retour à 21h.
Remontada obligatoire là pour les Parisiens.
Absolument. Oui, ils avaient été vaincus 3-2 la semaine dernière. Merci beaucoup Nina Pavan, c'était votre journal. Allez à suivre l'édito international d'Europe 1. Est-ce qu'Israël va en rester là après l'attaque iranienne de dimanche matin? C'est ce que lui conseille son grand allié américain. Seulement, c'est aussi ce que souhaite l'Iran. Le débat est brûlant à Tel Aviv depuis 48 heures. Vincent Hervouet raconte dans un instant.
Il est 7h39. Bon réveil avec Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon début de journée. Il est 7h42, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1 va se pencher sur le cas Raphaël Glucksmann, le phénomène de la campagne des européennes. En tout cas, c'est ce que nous en disent les médias. On va en parler avec Alexis Brézet. Le club culture d'Europe 1 matin, nous sommes mardi. mardi, jour des sorties de jeux vidéo. Bonjour Caroline Speller.
Bonjour Dimitri, aujourd'hui je vous propose deux jeux vidéo qui sont Grounded et Pentiment. Initialement prévus sur Xbox, ils sont maintenant aussi disponibles sur Switch et PS5.
Nicolas Caro, le livre du jour.
Bonjour Dimitri, je vous emmène au Japon moi.
Eh bien, tout de suite, Nicolas. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet.
Oui, bonjour Dimitri.
Vous revenez, Vincent, sur l'attaque iranienne visant Israël. Washington appelle Tel Aviv à la retenue.
Hein. Oui, une bonne guerre, il n'y a rien de mieux en campagne électorale. Mais il faut qu'elle soit courte, sans faire flamber le prix de l'essence à la pompe, et qu'elle soit victorieuse, évidemment. Et si en prime, c'est la guerre zéro mort, avec ces images floues qui rappellent les vieux jeux vidéo. Alors, vous voyez Joe Biden en commandant en chef, félicitant les boys pour leur travail exemplaire. Grâce à eux, l'Amérique, une fois de plus, a sauvé Israël. Joe Biden se dit épaté et lui-même se trouve épatant dans ce rôle. Le monde a compris que l'Amérique était debout sur les freins, qu'elle ne laisserait pas la confrontation entre Israël et l'Iran dégénérer. Halte au feu, autrement dit, pas d'escalade, comme on dit, pas de vague. L'embrasement du Moyen-Orient n'est pas au programme de la campagne démocrate.
Alors c'est un soulagement, Vincent, mais est-ce que c'est raisonnable ?
Mais pour le moment, tout le monde est content. Les Iraniens ont défié le petit Satan. Leur honneur est lavé après le bombardement de leur ambassade à Damas. Ils renforcent leur mainmise sur l'arc chiite. Israël a démontré l'efficacité de son dôme de fer, de la fronde de David, de toute sa high-tech, et prouvé qu'il était moins isolé qu'on l'imaginait. Et puis, même ses voisins arabes l'ont épaulé. Benjamin Netanyahou, quelques jours de sursis pour régler son compte au Hamas. Même le Royaume-Uni et la France ont tenu leur rang. Et ça, c'est flatteur. Vraiment, en rester là, ce serait tout bénef. Il y a juste un petit problème. C'est précisément ce que réclament les Iraniens. C'est leur calcul. Ils ont osé frapper Israël. Ils ont changé la donne stratégique au Moyen-Orient, mais ils n'ont pas l'intention d'en assumer le prix. Ils ont pris leurs précautions en prévenant 3 jours avant les Américains, en ne visant que des sites militaires, en affirmant ensuite que l'affaire était close. La dernière fois qu'Israël a essuyé des tirs de missiles, c'était il y a 30 ans, et Saddam Hussein a fini au bout d'une corde. Les Américains l'ont traqué jusque dans son trou, et ils n'ont pas l'intention d'en faire autant avec Ali Khamenei.
Mais c'est-à-dire que les dirigeants iraniens, Vincent, ne risquent vraiment rien ?
Mais Joe Biden et la moitié de son équipe, de son administration, ont fait leur classe sous Barack Obama. On se souvient de l'empressement de l'ancien président à conclure un deal à tout prix avec Téhéran, c'est l'accord de Vienne sur le nucléaire, qui laissait dans des pans entiers dans l'ombre, notamment la question balistique. Il faut d'ailleurs noter que l'armée iranienne et les gardiens de la Révolution ont continué à rivaliser pour mettre au point des missiles qu'ils prétendent hypersoniques. Et ce week-end, plusieurs se sont écrasés sur Israël. Ils ne portaient pas de charge nucléaire, bien sûr, du moins pas encore. Depuis 40 ans, Washington a cherché à contenir la République islamique, mais a toujours renaclé à l'affronter. Elle n'a pas riposté aux attentats de Beyrouth qui ont chassé les djihadistes du Liban, à l'attaque des tours de Kobar qui a tué des pilotes en Arabie, au harcèlement des milices chiites en Irak. Elle n'a pas réagi aux provocations dans le détroit d'Ormuz et à la poursuite de la course au nucléaire. Joe Biden a même levé une partie des sanctions financières. Depuis le 7 octobre, les bases américaines en Irak et en Syrie ont été attaquées des centaines de fois. Mais Washington prend soin de toujours prévenir Téhéran avant les représailles contre les miliciens chiites. Barack Obama rêvait de renouer avec les Iraniens le grand accord régional qui existait au temps du Shah. Biden aussi, ce serait le miracle de quoi faire oublier Donald Trump et les accords d'Abraham.
Et signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci Vincent. 7h46.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez d'un petit livre intitulé « La vie Combini ».
De Jérôme Schmitt aux Arènes, dans une petite collection très jolie, je suis sûr que vous l'avez déjà croisé dans une librairie. Ce sont de petits livres blancs sur le Japon, sur les us et coutumes. On en avait parlé déjà avec Tokyo Crush, les rencontres amoureuses au Japon, il y en a eu d'autres. Moi j'aime bien, mais je ne fais pas spécialement partie des fous de la culture japonaise, comme beaucoup de Français. Mais cette collection donne envie de découvrir et voici donc la vie Combini. Le Combini, c'est une petite épicerie, une supérette si on veut, mais on n'a pas vraiment l'équivalent chez nous, ouvert 7 jours sur 7 et la nuit aussi, éclairé au néon, on y trouve tout et n'importe quoi, alimentation, boissons, cigarettes, etc. Mais aussi des services, on peut se faire livrer quelque chose comme dans les points relais, mais on peut aussi y déclarer ses impôts par exemple. Il y en a 155 000 là-bas.
Ouais, mais que se passe-t-il dans le livre, Nicolas ? C'est une visite guidée, un essai de sociologie ?
On suit Jérôme Schmidt, grand spécialiste du Japon, dans ses pérégrinations dans les Combini du Japon, et on rencontre avec lui des personnalités improbables, on y croise même des yakuza. Il parle des employés qui tiennent les Combini, il raconte ses souvenirs de Combini, la fois où un ami, quand il connaissait encore mal le système, lui avait donné rendez-vous dans le Combini à la sortie de tel métro. Or, il y en avait au moins 3, sans compter ceux à l'intérieur de la station et dans les rues adjacentes. Erreur de débutant. Ou l'histoire de cet homme nommé Hiroyuki, un septuagénaire. En 2002, il entre dans un Combini avec un petit couteau. Il pose juste son arme sur le comptoir et demande calmement 50 000 yens à la jeune fille. Il est arrêté quelques jours plus tard, tant les poignets ne résistent pas. Il expliquera au procès qu'il est navré d'avoir fait peur à la jeune fille et qu'il voulait simplement se faire arrêter et être envoyé quelque temps en prison pour échapper à la rue. Il y en a eu une quinzaine de cas comme ça, nous explique Jérôme Schmitt. Enfin voilà, de Tokyo à Nagasaki en passant par Okinawa, c'est une sorte de tour du Japon par les Combini et c'est fascinant.
Voilà, la vie Combini, donc signé Jérôme Schmitt, c'est aux éditions des Arènes. Merci Nicolas Caro. Caroline Speller au rayon jeux vidéo cette semaine. Deux titres, donc Grounded et Pentiment. Initialement, c'était des exclusivités pour la console Xbox de Microsoft, mais Microsoft a changé de stratégie. Ces deux titres sont maintenant disponibles également chez Sony et Nintendo.
Oui, il fut un temps, le choix d'une console se faisait par ses jeux exclusifs, mais Microsoft pense que c'est le moment pour croître et rentabiliser certaines de ses franchises sur PS5 et Switch. Des consoles vendues respectivement dans le monde à 50 et 139 millions d'exemplaires tout de même. Pour le moment, cela concerne 4 jeux, dont 2 du studio américain Obsidian, rachetés par Microsoft en 2018.
Alors, comme Grounded, jeu d'aventure et de survie, qui est disponible en téléchargement aujourd'hui. Hein.
Oui, alors vous connaissez le film Chérie, j'ai rétréci les gosses. Grounded, c'est pareil. On incarne un adolescent miniaturisé à la taille d'une fourmi. Seul ou à 4 en ligne, notre mission est d'explorer le monde infiniment petit de votre jardin, de construire un abri, des armes et manger. Évidemment, nous devons cohabiter avec une quarantaine de créatures qui rampent, volent, qui peuvent potentiellement se transformer en prédateurs ou devenir un animal de compagnie. Oui, le puceron peut aussi être le meilleur ami de l'homme. En revanche, les arachnophobes, courage!
L'autre jeu s'appelle Pentiment, aventure narrative inspirée par le nom de la rose d'Umberto Eco.
Oui, une sorte de roman interactif au style graphique qui rend hommage aux enluminures et à la calligraphie médiévale. Ce jeu nous transporte dans un polar historique dans le milieu des moines copistes au XVIe siècle. On y incarne l'artiste Andreas Mahler qui se rend dans le scriptorium de l'abbaye d'une petite ville bavaroise pour parfaire son talent, mais son destin change à la suite d'un meurtre. C'est à nous d'élucider l'affaire dans une aventure qui évolue sur 25 ans où nos rencontres, discussions et choix ont un impact sur notre histoire et la communauté. Alors oui, Pentiment est un ovni du jeu vidéo, mais c'est une pépite artistique et narrative à hauteur d'homme dans une période de grands changements religieux et politiques entre le Moyen-Âge et l'époque moderne.
Merci Caroline, merci Nicolas, merci Vincent. On vous retrouve avec bonheur dès demain, dans un instant, votre édito politique sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Alexis Brézet, dans un instant sur Europe 1, juste après le journal permanent de Nina Pavan.
Nouvelle réunion du cabinet de guerre du gouvernement Netanyahou prévue ce matin en Israël. L'État hébreu favorable à une réponse militaire après les tirs de missiles iraniens qui ont visé son sol ce week-end. Les États-Unis et la France notamment craignent un embrasement dans la région. À Mayotte, une deuxième opération Wambushu doit être lancée ce matin pour lutter contre l'insécurité et les bidonvilles. La ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, est attendue sur place aujourd'hui. Pour faire des économies, le ministère du Travail annonce vouloir supprimer l'aide aux entreprises qui forment des jeunes en contrat de professionnalisation. Depuis 2020, l'État verse 6 000 euros pour chaque contrat. La Confédération des petites et moyennes entreprises fustige une mauvaise idée. Ce soir, 21h, le PSG affronte le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des champions de football. Les Parisiens battus 3-2 à l'aller.
7h, 9h, Europe 1 matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors si l'on en croit les sondages, Alexis, Raphaël Glucksmann, qui conduit la liste européenne soutenue par le Parti Socialiste, n'est plus très loin de Valérie Ayer, la candidate macroniste. Est-ce que les courbes vont finir par se croiser, Alexis ?
C'est le scénario qui fait souffler un vent de panique sur la Macronie depuis quelques jours, et qu'au regard des chiffres, on ne peut plus exclure. Alors certes, selon les instituts, Raphaël Glucksmann est encore 4 à 6 points derrière Valérie Ayer, ce qui laisse un peu de marge. Mais en politique, ce qui compte, c'est la dynamique. Glucksmann arrive à 12 en partant de 6. Ayer est entre 16 et 18 alors qu'elle vient de 21-22. Pas besoin d'avoir fait maths sup pour prolonger les traits. Évidemment, ce croisement des courbes serait une catastrophe pour la majorité. Parce que arriver loin derrière le RN, ça leur fait pas plaisir, mais avec le temps, les macronistes avaient fini par se faire à l'idée. Ils se disaient c'est une vague, un phénomène européen, quasiment une fatalité. Mais finir derrière Place Publique, le micro-parti de Raphaël Glucksmann dont personne n'a jamais entendu parler, s'incliner devant le PS, ce parti zombie qu'on jurait mort et enterré. Mais c'est une terrible humiliation, un constat d'échec absolu. Sur 100 électeurs prêts à voter Raphaël Glucksmann, nous indique une passionnante étude réalisée pour la Fondation Jean Jaurès, 30 viennent de chez Macron. Des électeurs de gauche, une gauche modérée, social-démocrate, qui ne se reconnaissent ni dans la loi immigration, ni dans la future réforme de l'assurance chômage, ni dans la fin de l'emploi à vie des fonctionnaires. Bref, qui n'acceptent pas ce qu'ils considèrent, même si ce n'est pas l'avis des électeurs de droite, comme un tournant à droite d'Emmanuel Macron. Alors ces électeurs, au début, Valérie Ayer a essayé de les retenir, en leur expliquant que Raphaël Glucksmann était au fond un macroniste. Sous-entendu, puisqu'il est comme nous, pas la peine de voter pour lui. Fatale erreur, elle n'a réussi qu'à décomplexer le vote en faveur de son rival. Depuis, les macronistes ont totalement inversé la vapeur. Sous ces dehors d'aimables progressistes, Glucksmann cacherait une âme de dangereux gauchiste. C'est l'arbre qui cache la NUPES, nous dit-on. Bon, à vrai dire, il ne semble pas que cette mélenchonisation tardive fonctionne tellement mieux.
Et du côté de Jean-Luc Mélenchon, justement, Alexis, comment vit-on l'ascension de Raphaël Glucksmann dans les sondages ?
Mal. Mal parce que pour le leader des Insoumis, c'est une mauvaise nouvelle aussi. Au fond, Jean-Luc Mélenchon se fiche bien que sa candidate Manon Brine ne décolle pas de ses 7%. Et il a toujours pensé que dans son parti et dans son camp, il n'y avait que lui. Mais c'est bien le problème. Toujours d'après la même étude de la Fondation Jean Jaurès, sur 100 électeurs décidés à voter Glucksmann, 38 viennent de chez Mélenchon. 38 des électeurs de gauche, alors vraiment de gauche ceux-là, mais qui ne se reconnaissent plus dans les excès, les brailleries, les invectives, l'antisémitisme à peine déguisé des insoumis et de leur chef suprême. Pour la suite, c'est ce rejet personnel qui suscite désormais dans une partie de sa gauche qui est préoccupant pour Jean-Luc Mélenchon.
Selon vous, Alexis, cette double sanction donc, contre les macronistes d'un côté et les mélenchonistes de l'autre, est-ce que ça peut, comme on le dit, ouvrir un espace à la social-démocratie lors de la prochaine présidentielle en 2027?
Alors ça, c'est la thèse de François Hollande, qui, avec un aplomb confondant, alors dont on ne sait trop s'il relève de l'aveuglement ou d'un goût prononcé pour le canular, prétend qu'il pourrait revenir en 2027 porté par un puissant mouvement de nostalgie. Bon, à mon avis, il se trompe doublement. D'une part, parce que s'il accomplit l'exploit d'arriver devant Valérie Ayer, on voit mal pourquoi Raphaël Glucksmann choisirait ensuite de s'effacer gentiment devant l'ancien président socialiste. D'autre part, parce que rien n'est plus fugace, et ça vaut pour tout le monde, qu'un succès européen. L'écologiste Yannick Jadot le sait bien, qui fit 13,5% aux européennes de 2019 et 4,5% seulement à la présidentielle qui suivait en 2022. Une hirondelle à Bruxelles n'a jamais fait le printemps à Paris.
L'édito politique sur Europe 1, merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, comment Bercy recherche désespérément des économies. Grand papier également sur cette opération Wambushu 2 à Mayotte pour tenter de faire oublier l'échec de la première. Nous en parlerons dans le journal de 8h. À demain Alexis.
Il est 7h56 sur Europe 1. Nous sommes le mardi 16 avril et il y a 30 ans, le 16 avril 1994, c'est une musique de film qui est la plus écoutée en France. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was. Street of Philadelphia de Bruce Springsteen, la musique du film Philadelphia qui a permis à Tom Hanks d'avoir son premier Oscar. Et surtout, ce titre a remporté l'Oscar de la meilleure chanson de film. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia.
Voilà, nous fêtons ce jour Sainte Kateri Tekakwitha. J'écorche son nom, jeune femme qui fut la première amérindienne canonisée. Issue d'une noble lignée iroquoise, elle partit se réfugier dans une mission jésuite où elle passa le reste de sa vie. C'était à la fin du XVIIe siècle. Restez avec nous sur Europe 1 dans un petit quart d'heure. L'invité de la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk, l'historien Georges Bensoussan. Il est 7h57.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Bientôt 8h sur Europe 1. Anissa Dadi, la météo, temps bien agité sur la majorité des régions.
C'est très agité, on a beaucoup de nuages, c'est même automnal ce mardi 16 avril, avec des pluies les plus importantes ce matin sont pour les régions situées entre les Pyrénées et les Alpes, en passant par le Massif Central. Retour de la neige ce 16 avril aussi sur les Alpes, les Vosges, le Jura, le Massif Central et les Pyrénées. Alors on a un temps agité aussi sur toute la façade Est, avec des orages qui éclatent cet après-midi, notamment sur la Champagne-Ardenne ou encore la Franche-Comté. Il n'y a qu'au bord de la Méditerranée que le soleil sera présent, avec beaucoup de vent, Mistral et Tramontane jusqu'à 90 km/h. Les températures sont en chute libre cet après-midi, seulement 10 degrés à Belfort, 11 à Aurillac, 13 à Saint-Brieuc et Quimper, 14 à Paris et Lyon, 20 pour Ajaccio et 23 à Bastia.
Merci Anissa Dadi, bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 16 avril, il est 8h.
Europe 1 matin, 7h-9h. Dimitri Pavlenko.
Des centaines de policiers et gendarmes mobilisés dès aujourd'hui à Mayotte, un an après l'opération Wambushu. Le gouvernement lance une nouvelle action contre l'immigration illégale et la délinquance qui gangrène l'île. On verra ce qu'en disent les collectifs citoyens sur place. L'État hébreu, lui, prépare sa riposte après l'attaque iranienne de dimanche. Agression condamnée par la France, qui craint un embrasement de la région, mais aussi l'ingérence de plus en plus forte de l'Iran sur notre territoire. Explication dans quelques instants. Cette information Europe 1, la France va bien inviter la Russie pour célébrer les 80 ans du débarquement de Normandie le 6 juin prochain. Encore faut-il que le Kremlin accepte l'invitation. Et puis tous derrière Kylian Mbappé, l'attaquant parisien, meilleure chance de l'emporter ce soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions face à Barcelone. 8h10, juste après ce journal. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous venez d'en parler dans votre journal. La riposte israélienne serait imminente. Elle est en tous les cas annoncée par Tsahal et les conséquences seront importantes. On en parle avec l'historien Georges Bensoussan à tout à l'heure.
Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On prend les mêmes et on recommence. Un an après la première opération Wambushu à Mayotte, le gouvernement lance aujourd'hui un nouveau plan d'action contre la délinquance, l'immigration clandestine et l'habitat insalubre. Bonjour Christophe Bordet.
Bonjour à tous.
La dernière fois, les résultats n'avaient pas été probants. On s'interroge forcément. Ce matin, cette nouvelle opération Place Nette à Mayotte sera-t-elle cette fois plus qu'une opération communication ?
Vous avez raison, c'est toute la question de cette nouvelle opération Place Nette lancée aujourd'hui. On nous parle de 400 policiers et gendarmes mobilisés, au moins 1700 membres des forces de l'ordre jusqu'au mois de juin, deux vedettes de l'armée déployées pour des interceptions en mer. Il s'agirait plutôt en réalité de deux gros zodiaques, pas certains qu'ils permettront le fameux rideau de fer évoqué par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, les opérations de sécurisation menées, comme celle appelée Wambushu 1, n'ont pas donné de résultats probants, comme le confirme d'ailleurs Abdou Badirou, il est porte-parole d'un collectif d'habitants.
L'immigration a augmenté. Même les immigrés du Grand Lac ont compris qu'il fallait passer par là pour arriver à Mayotte, dans un territoire français, pour espérer peut-être avoir une situation stable. Les navettes qui se font entre les îles de Comores et Mayotte, voire même en passant par Madagascar, n'ont jamais cessé. Ça a été multiplié. À la date d'aujourd'hui, la situation reste encore tendue. Les agressions se multiplient à Mayotte au jour le jour.
Des agressions, des violences quotidiennes comme des caillassages de bus scolaires, des carjackings, des vols, des agressions en pleine rue. Tout cela continue donc. Il s'agit cette fois, semble-t-il, de mettre la main sur une soixantaine d'individus connus des services de police, notamment des chefs de bande. La ministre des Outre-mer doit s'exprimer sur place dans la journée. Une opération Place Nette qui intervient alors que deux projets de loi sur la sécurisation, l'immigration et le développement économique de l'île sont en cours de préparation par le Conseil des ministres du 22 mai prochain. Ainsi, un démocratie qu'une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte.
Merci Christophe Bordet. Les policiers en colère ce matin en Alsace. Un policier municipal a été blessé hier soir dans le Bas-Rhin après avoir été délibérément renversé par un jeune de 17 ans lors d'un rodéo urbain. Le jeune a été interpellé et placé en garde à vue.
8h04 sur Europe 1, la mise au point de l'armée israélienne. Il y aura bien une riposte à l'attaque iranienne de ce week-end.
Nous le ferons à l'occasion et au moment que nous choisirons, a déclaré hier le chef d'état-major. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Le cabinet de guerre israélien s'est réuni à plusieurs reprises pour discuter des formes que pourrait prendre cette riposte. Quelles options sont sur la table ?
La première et le premier scénario envisagé, c'est la riposte directe, frontale. Israël pourrait décider de frapper l'Iran sur son sol, des sites sensibles, ses infrastructures de production nucléaire par exemple, ou des positions militaires. Un scénario du pire, la Maison-Blanche a fait savoir qu'elle ne soutiendrait pas Tel Aviv en cas d'escalade. Le second scénario, c'est qu'Israël attaque les proxys de l'Iran dans la région. Le Hezbollah libanais au nord, les Houthis au Yémen ou encore les milices pro-Iran en Irak et en Syrie. Enfin, reste la voie diplomatique et l'apaisement, c'est l'appel quasi unanime de la communauté internationale avec de possibles nouvelles sanctions contre Téhéran.
Wilfried, que dit la population israélienne de cette riposte ? Est-ce qu'elle y est favorable ?
Eh bien, cette question divise l'opinion publique. D'un côté, beaucoup de personnes m'ont dit ces derniers jours espérer une riposte directe, sans attendre, sans quoi Israël pourrait apparaître faible. D'autres sont plus mesurés et ne veulent pas d'une escalade avec l'Iran. D'ailleurs, ils n'y croient pas vraiment, comme Samuel.
Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus inquiets par la question des otages, la guerre qui continue aujourd'hui dans la bande de Gaza, que par un conflit ouvert avec l'Iran. Aujourd'hui, je ne pense pas que les gens y croient vraiment.
On sait en tout cas désormais qu'il y aura bien une riposte contre Téhéran, quelle que soit la forme qu'elle prend.
Merci beaucoup Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Washington, de son côté, assure ne pas être impliqué dans cette riposte. La Chambre des représentants des États-Unis s'est par ailleurs décidée cette nuit à voter une aide de 14 millions de dollars à Israël et une autre de 60 millions de dollars à l'Ukraine. Ce sera cette semaine, après des mois de blocage politique.
De son côté, la France a fermement rappelé hier sa condamnation des bombardements iraniens.
Et elle continue à appeler à la désescalade. Paris, comme d'autres capitales européennes, craint non seulement l'embrasement du Moyen-Orient, mais aussi les ingérences de Téhéran, de plus en plus fortes sur notre territoire, Jean-Baptiste Marty.
Des tentatives d'enlèvement des jouets sur le sol français, parfois même des projets d'assassinat d'opposants au régime directement commandés depuis Téhéran. Les cas d'ingérence avérés se multiplient ces derniers mois. La traque très organisée au quotidien des opposants politiques se fait au travers des associations iraniennes contrôlées depuis le Moyen-Orient. Manaz Shirali, sociologue iranienne réfugiée en France.
Téhéran a une influence sur eux et ils savent qu'ils doivent écouter les volontés de ceux qui les financent, de plaire à ceux qui les financent pour avoir la continuation du financement.
Avec entre autres l'obligation de respecter des coutumes islamiques rigoristes.
La femme doit être voilée, la femme doit rester à la maison, la femme ne doit pas participer à des fêtes, à des affaires, à la vie moderne.
Téhéran développe également son emprise en interférant dans les médias avec la création ces dernières semaines de sites antisémites dont celui intitulé France Terre Fatiguée, site signalé par le renseignement. Une activité de plus en plus inquiétante dans le contexte actuel et qui justifie de nouvelles protections policières accordées ces derniers jours à des opposants au régime iranien.
Voilà Jean-Baptiste Marty, l'aide américaine qui se chiffre non en millions mais en milliards. Une enveloppe de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, 14 milliards pour Israël sera soumise au vote cette semaine à la Chambre des représentants aux États-Unis.
En Australie maintenant, l'attaque au couteau dans une église assyrienne de Sydney est bien un acte terroriste, dit la police australienne.
Le suspect connu de la police, un adolescent de 16 ans, a été interpellé après avoir blessé 4 personnes en pleine messe hier matin, déclenchant la fureur des fidèles et des affrontements dans la rue.
Allez, restez avec nous dans un instant sur Europe 1. Est-ce que la Russie participera à la commémoration du débarquement de Normandie ? Réponse dans un instant.
7h, 9h, Europe 1 matin.
8h08 sur Europe 1, la suite du journal. Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko.
Un nouvel hommage aux héros de la Seconde Guerre mondiale pour marquer les 80 ans de la libération. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Vassieux, en Vercors, dans la Drôme.
Terre de résistants où 73 habitants ont été massacrés par les troupes allemandes à l'été 44. Ce sera assurément un temps fort des commémorations avant la cérémonie internationale du 6 juin prochain en Normandie. Cérémonie qui gardait jusqu'à présent un point d'interrogation. Faut-il ou non inviter la Russie ? Eh bien, la France France s'apprête à rendre sa décision, Arthur Delaborde.
Selon les informations d'Europe 1, la Russie sera bien représentée début juin en Normandie si toutefois Moscou accepte l'invitation de l'Elysée. Sauf coup de théâtre, le président Vladimir Poutine ne participera pas en personne aux commémorations, mais une délégation russe y sera conviée. L'homme fort du Kremlin était présent au 70e anniversaire du débarquement de Normandie, mais absent il y a 5 ans. Quoi qu'il arrive, un carton d'invitation sera adressé à la représentation diplomatique de Moscou en France, en dépit de la situation géopolitique. Difficile en effet de se passer totalement de la présence de la Russie, bien que l'URSS n'ait pas directement participé au débarquement du 6 juin. Elle l'a rendu possible en payant le plus lourd tribut lors de la Seconde Guerre mondiale. Près de 27 millions de soviétiques sont morts pour combattre l'Allemagne.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le sport, et c'est aujourd'hui un événement solennel marquant. La flamme olympique va être allumée aujourd'hui à midi à Athènes. Elle sera ensuite remise à Laure Manaudou qui sera la première porteuse de flamme française.
Voilà, et puis en football, n'oubliez pas PSG, FC Barcelone, match retour des quarts de finale de Ligue des Champions ce soir à 21h. Et on espère que les Parisiens seront à la hauteur de l'enjeu. Merci beaucoup.
Merci
Fanny Marceau.
Vous.
C'était votre journal. Dans un instant, restez avec nous sur Europe 1. L'historien Georges Bensoussan est l'invité de Sonia Mabrouk.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Tout de suite sur Europe 1, l'historien Georges Bensoussan est l'invité de Sonia Mabrouk.
Bienvenue et bonjour Georges Bensoussan.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence. Vous êtes historien, auteur notamment du livre Les origines du conflit israélo-arabe aux éditions Que sais-je. Et d'ailleurs, est-ce encore un conflit israélo-arabe quand on sait que des pays arabes ont participé à la défense aérienne d'Israël? On en parlera. Mais tout d'abord, Georges Bensoussan, quelle forme prendra la riposte israélienne? C'est une question majeure pour la région et bien au-delà. La plupart des capitales occidentales appellent Israël à la retenue et donc à éviter un affrontement direct avec l'Iran. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire de votre point de vue pourquoi cette riposte est importante, voire inévitable?
La riposte est inévitable parce que si, c'est d'ailleurs la situation piégée dans laquelle est Israël, et depuis le 7 octobre d'ailleurs, hein, parce que si Israël ne répond pas alors que l'attaque vient d'Iran et que c'est une attaque massive avec 300 engins et 60 tonnes d'explosifs, ça signifie que sa capacité de dissuasion est entamée. Et si Israël riposte de façon trop massive, alors ça contrecarra les plans et les objectifs de l'allié américain. Donc la voie est très très étroite pour l'État d'Israël. Il ne peut pas ne pas réagir, mais il doit réagir de façon très intelligente, très mesurée. Comment? Je n'en sais rien, bien sûr, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas ne pas réagir.
À vous entendre, en tout cas, l'hypothèse d'un affrontement direct, parce que c'est ce qu'on a vécu avec une rupture historique,
absolument,
avec l'Iran, pour le moment, en tant que riposte, serait écartée. Pour tenir compte de ce qu'a dit les États-Unis.
Plutôt, parce que l'État d'Israël ne peut pas se passer du soutien américain. On a bien vu dans la riposte de la nuit de samedi à dimanche, les États-Unis, la Grande-Bretagne et indirectement la Jordanie ont aidé à l'efficacité du bouclier israélien.
C'est important cette aide ou cette contribution de ces pays-là. Ils n'en ont pas fait état par rapport à leur population. Malgré tout, est-ce que vous y voyez cette mise en avant une rupture, en tous les cas un basculement dans l'histoire de certains pays arabes?
C'est déjà vrai depuis les accords d'Abraham. C'est vrai même avant avec la paix avec la Jordanie et la paix avec l'Égypte, dans la mesure aussi où il y a un axe sunnite qui est particulièrement angoissé par l'offensive millénariste chiite qui vient de l'Iran, qui est une offensive belliqueuse, belliciste, extrêmement dangereuse, pas seulement pour la paix de la région, mais pour la paix mondiale. On voit bien que c'est un régime qui est partagé entre le souci de se conserver et en même temps ses aspirations millénaristes totalement folles. Donc un régime de ce type-là, de type millénariste, c'est un régime dont on ne sait pas où il peut aboutir demain. Donc cette alliance avec les pays sunnites, c'est quelque chose qui est inscrit un peu, si vous voulez, dans la nature même du conflit.
Régime de type millénariste, dites-vous, Georges Bensoussan, et avec quand même le caractère nucléaire de ce conflit qui est majeur, hein, capacité nucléaire à venir. Vous dites que c'est une menace existentielle. C'est aussi ce que dit Israël, pas seulement pour Israël.
Mais ce n'est pas un ressenti. C'est dit clairement par l'État iranien, qui n'appelle jamais Israël par son nom, mais qui parle de l'entité sioniste, du régime sioniste qui est appelé à disparaître. Le Hamas, d'ailleurs, dit exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis des décennies, ces gens-là disent à l'État d'Israël et aux Israéliens, vous devez disparaître de la surface de la Terre.
Ils le disent, mais dans quelle mesure ont-ils les moyens de le faire?
Ils ont les moyens de le faire demain. Ils ont prouvé ici, en franchissant un seuil, en envoyant 300 engins qui n'étaient pas équipés de fleurs, mais qui étaient équipés de 60 tonnes d'explosifs. Si ces engins n'avaient pas été arrêtés à 95%, il y aurait eu des milliers de morts en Israël. Donc on est ici en présence d'un acte de guerre extrêmement grave. Sur le fond. Donc la menace génocidaire, c'est pas un fantasme d'Israélien ou un fantasme de juif obsédé par la Shoah, c'est une réalité qui est dite clairement par les tenants du régime iranien, dont je rappelle que c'est un régime où le négationnisme est une idéologie d'État, où l'antisémitisme aussi. Je rappelle aussi qu'en matière de terrorisme, ils ont fait exploser l'ambassade d'Israël en Argentine en 92 et le centre culturel juif à Buenos Aires en 94. 29 morts dans un cas, 85 de l'autre. Donc c'est un État terroriste. Un État terroriste en plus qui, quand je parle de négationnisme, a promu Robert Forisson comme historien officiel d'Iran. Pour les questions, entre guillemets, d'Holocauste, comme ils disent.
Vous parlez de régime, vous faites la différence avec la population, on va en parler.
Fondamental.
Fondamental, on va y venir. Mais est-ce que vous estimez, malgré tout, malgré ce que vous dites, Georges Bensoussan, que l'Iran a dû répondre à l'attaque et au bombardement de son consulat iranien à Damas?
Bien sûr. L'Iran était obligé, pour rétablir sa capacité de dissuasion et sa crédibilité dans un monde qui, de ses alliés, c'est-à-dire les Houthis, le Hezbollah, et le Hamas, etc., de rétablir une crédibilité qui est largement entamée depuis 7 octobre. C'est-à-dire que ces gens-là ne se battent jamais directement, ils font combattre ce qu'on appelle les proxys. Donc ils étaient obligés, bien sûr, de réagir, puisqu'ils ont eu des pertes considérables dans la destruction du consulat à Damas, bien sûr.
Proxys qui sont les Houthis, qui sont le Hezbollah, probablement d'ailleurs, oui. Dit-on que la riposte israélienne pourrait se concentrer sur le Hezbollah libanais, ce qui arrangerait beaucoup de monde dans la région.
Bien sûr. Et en même temps, ça n'est pas une réponse tout à fait adéquate parce que les missiles ne sont pas partis du Liban, ils sont partis d'Iran.
Oui,
c'est
mais alors
la
si on
fois.
Vous écoute, s'il devait y avoir une riposte proportionnée, elle viserait quand même l'Iran.
Ce serait une énorme erreur de la part d'Israël, parce qu'il ne faut surtout pas braquer la population iranienne qui est massivement hostile à ce régime. Il y a eu en Iran, après l'attaque de la nuit du samedi à dimanche, il y a eu des inscriptions sur les murs, et ces gens qui ont placardé ces inscriptions ont pris des risques mort-mort, disant carrément à Israël en anglais et en persan, frappez-les, le peuple iranien est derrière vous. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a une majorité du peuple iranien qui n'attend qu'une chose, c'est que ce régime s'effondre.
C'est la réalité quand on dit une majorité ou est-ce que c'est ce qu'on veut voir avec nos lunettes occidentales? Il est vrai, Georges Bensoussan, nous avions reçu sur Europe 1 Mona Jafarian, qui préside une association de femmes, azadies, qui avait dit « Attention, les scènes de liesse que vous voyez après l'attaque iranienne sont orchestrées par le régime.
Absolument.
Ce n'est pas la réalité de ce que nous pensons. »
Pourquoi je dis cela? Parce qu'il se trouve que les hasards de la vie font que je suis lié à un certain nombre de spécialistes d'études iraniennes en France, à l'université, dont d'ailleurs une de mes anciennes élèves, qui est aujourd'hui qui a une chaire d'études iraniennes. Et ses compagnons, dont d'ailleurs son compagnon lui-même, qui est d'origine kurde irakienne, mais qui sait parfaitement le persan. Et par eux, je sais énormément de choses qui ne passent pas dans la presse française. Donc, quand je dis que le régime n'est pas aux abois, loin de là, mais que c'est un régime impitoyable, qui fait montre de la même cruauté, violence que le nazisme envers ses ennemis, mais qu'en même temps il y a une énorme capacité dans la société iranienne, volonté de la population iranienne à se débarrasser de ce régime, ce n'est pas un fantasme, si vous voulez, ce n'est pas seulement mes propres désirata que je projette sur l'actualité politique. C'est une réalité.
Il y a, Georges Bensoussan, dans une partie du spectre politique français, à l'extrême gauche, certains élus, notamment Irsilia Soudé de la France Insoumise, qui a comparé Israël et l'Iran, parlant de deux théocraties. Il y a aussi une conférence prévue à Lille de Jean-Luc Mélenchon, dont l'affiche fait polémique. Vous la voyez, je la décris pour nos auditeurs d'Europe 1, actualité en Palestine, et puis avec Rima Hassan. Oui. Comment vous réagissez et comment vous expliquez aussi que ce discours infuse en partie en France, et pas qu'en France.
Alors d'abord, car s'il y a soudé puisse dire qu'on a affaire en Israël à une théocratie, soit c'est de la bêtise crasse, soit c'est de la mauvaise foi absolue. Bon, c'est probablement un mélange des deux, un mélange de bêtises, profondément, d'ignorance et de mauvaise foi. C'est-à-dire que dans l'État d'Israël, l'instance suprême n'est pas le tribunal de la halakha, l'équivalent de la charia, si vous voulez, pour les musulmans. L'instance suprême, c'est la Cour suprême, c'est-à-dire une démocratie. Et une authentique démocratie, ce n'est pas pour faire plaisir aux Israéliens qu'on dit toujours que c'est la seule démocratie de la région. Donc d'une part, ça n'a rien à voir avec une théocratie. D'autre part, quand je vois Rima Hassan sur cette photo que vous projetez, qui est en 7e position, je crois, éligible.
Sur la liste, tout à fait.
Or, son slogan, c'est « Palestine libre, du fleuve à la mer ». Qu'est-ce que ça veut dire, du fleuve à la mer ?
L'élimination d'Israël.
C'est l'élimination de l'État d'Israël. C'est un slogan génocidaire. Qu'un parti comme celui-là puisse promouvoir une candidate, demain élue, qui annonce la destruction d'un État et dont la destruction d'un État fait partie du programme, c'est une honte absolue pour la nation française. C'est le cas en France. C'est une honte absolue. Ce parti, LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires.
Mélenchon, Doriot, même combat,
oui,
ça va
même
faire
combat.
Ce que vous dites.
Oui, même combat. Je suis assez historien pour savoir ce qu'était le PPF à partir de 1938-1939.
Israël et surtout Benjamin Netanyahou étaient très isolés sur la scène internationale du fait de la guerre à Gaza et du lourd bilan humain. La France avait haussé le ton, pas seulement la France. Est-ce que cette attaque iranienne, paradoxalement, inverse le cours des choses ?
Pas vraiment sur le fond, à savoir que malgré tout, l'attaque iranienne a montré que les lignes de force mises au pied du mur, c'était quand même, qu'on le veuille ou non, un axe sunnite. Israël, israélo-américain, qui s'opposait à l'expansionnisme chiite. Ça, c'est une chose. Mais que la rue arabe est embrayée derrière les gouvernements, ça, j'en suis pas sûr du tout. Je pense que la rue arabe est foncièrement anti-israélienne. Les accords d'Abraham, par exemple, sont des accords signés avec des gouvernements. Je pense pas que la rue marocaine soit très favorable à ce qui s'est passé, à le rapprochement avec Israël.
L'armée israélienne, Jean-Luc Bensoussan, affirme que les otages sont désormais à Rafah, ce qui justifierait, selon Tsahal, à leurs yeux, une intervention dans cette ville, et ce, malgré les mises en garde de Washington et d'autres capitales internationales qui craignent un bain de sang sur place. D'abord, parlons des otages. Malheureusement, on en parle peu, nous tous, hein, et là, c'est une forme d'autocritique, si je peux me permettre. Est-ce que ces otages sont passés, c'est terrible à dire, au second plan aujourd'hui ?
On a l'impression qu'ils sont passés au second plan, et ce qu'on ne voit pas, parce qu'il y a toujours des négociations qui se passent au Caire, c'est qu'à plusieurs reprises, des offres ont été faites au Hamas et que le Hamas, dernièrement encore hier, les a refusées. Il a même accepté de ne livrer que 20 otages. Un jour, c'est 40, un jour, c'est 20, etc. En réalité, ce qu'on peut craindre, c'est qu'un grand nombre d'otages soient morts et que le Hamas ne puisse pas le dire. La deuxième chose qu'on puisse craindre, c'est que Yahya Sinwar, qui est probablement dans le sud de la bande de Gaza, veuille garder les otages comme bouclier humain autour de lui. Donc, les semaines traînent de plus en plus. On sait que les otages vivent un enfer. Et il y a fort à parier, malheureusement, qu'on n'aura pas 134 otages, mais probablement très, très peu d'otages encore en vie d'ici quelques semaines.
Le Hamas est en grande partie, en tout cas en partie, quand même détruit ou anéanti. Mais qu'en est-il du bilan pour arriver à là ? Et que répondez-vous, Georges Bensoussan, à l'idée selon laquelle ce bilan humain va être un carburant, un moteur puissant pour recruter eh bien, de futurs ennemis d'Israël ?
Vous avez raison.
Voire terroristes.
C'était ça le piège du 7 octobre. Israël ne pouvait pas ne pas réagir, mais Israël réagissait dans un milieu urbain où forcément il y aurait des pertes civiles considérables. Qu'on doit évidemment déplorer. Mais ce qu'on peut remarquer, et Luc de Barochet dans Le Point l'a très bien fait remarquer ces dernières semaines, c'est qu'il n'y a pas de guerre propre. C'est un concept absurde. Mais il y a des guerres moins sales que d'autres. Et Luc de Barochet disait, Israël mène une guerre probablement moins sale que d'autres dans la région depuis le 7 octobre.
Même si cette dialectique peut choquer. Hein.
Oui, elle peut choquer. Mais j'explique. Je reprends les chiffres de Luc de Barochet. Il dit que dans les conflits modernes, tels que définis par les Nations Unies, le ratio entre combattants et morts civils est de 1 à 9, c'est-à-dire 1 combattant tué et 9 civils tués. Dans l'histoire de la bande de Gaza, même si on s'en tient aux chiffres du Hamas, qui sont probablement des chiffres mensongers, puisque le Hamas ment en permanence, mais admettons qu'il y ait 33 000 victimes, ça signifierait, vu le nombre de combattants tués, qu'il y aurait un combattant tué pour 2 civils tués. C'est-à-dire que Luc de Barochet a raison de dire « ça n'est pas une guerre propre à l'évidence, sans doute moins sale que d'autres ». C'est tout ce qu'on peut dire. Mais ce qui est frappant dans ce conflit, c'est une phrase qui a été écrite dans Nouvel Observateur, il y a quelques années, je vais vous la lire. Voici ce que disait l'homme politique français qui le dit en 1982, au moment de la première guerre du Liban, il y a 42 ans. Le spectateur qui voit les images projetées à la télévision est naturellement enclin à penser que c'est toute une nation qui est écrasée sous les bombes. On parle de juifs, tueurs d'enfants, de génocide, d'holocauste, comme si c'était l'objectif même du gouvernement israélien de massacrer délibérément des civils et des enfants. Fin de citation. C'était il y a 42 ans au moment de la première guerre du Liban. Vous savez qui est l'auteur ? Pierre Mendès France. Pierre Mendès France. Quand j'ai lu cette phrase hier...
Reprenez mot
oui,
pour mot.
Mot pour mot. Quand j'ai lu cette phrase hier, j'ai eu un choc. Je me suis dit, mais rien n'a bougé depuis 42 ans. On est dans un schéma mental où l'État d'Israël est devenu l'État paria qui succède au schéma du peuple paria de jadis. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse de toute façon, et c'était joué dès le 8 octobre, l'État d'Israël sera en position d'accusé.
Mais expliquez-nous comment alors ceux qui pensent comme on les appelle en France et dans d'autres capitales occidentales ou ailleurs, mais les intellectuels, en partie, participent de cette inversion du récit.
Écoutez,
c'est vous qui faites partie
oui,
de cette...
Si vous prenez l'histoire des intellectuels français, et là je recommande la lecture de François Dos, qui a fait une superbe somme sur la saga des intellectuels français depuis 1945, qui vient de sortir chez Folio Gallimard. Si vous prenez l'histoire des intellectuels français depuis 1945, vous constatez qu'un très grand nombre d'intellectuels français, en particulier à gauche, surtout à gauche malheureusement, se sont fourvoyés d'erreur en erreur depuis 1945. C'est la guerre froide où, sous la houlette du Parti communiste français, on a soutenu les camps soviétiques, on a soutenu les délires biologiques de Lysenko. C'est la Hongrie en 1956, c'est la folie pour la révolution culturelle chinoise. On n'a pas voulu voir les millions de morts de la Grande Famine et de la révolution culturelle. C'est l'engouement pour les Khmers rouges qui arrive à Phnom Penh en 1975 et ensuite on sait ce qui s'est passé.
C'est la même chose.
C'est la même chose avec aujourd'hui un autre pôle de cristallisation, une autre patrie rêvée qui cristallise tous les espoirs de l'humanité, c'est la Palestine. Mais de quoi la Palestine est-elle le nom? C'est un peu ce qu'on est tenté de demander aujourd'hui. Et quand on voit ce qu'a été la saga des intellectuels français à gauche depuis 1945, on ne peut qu'être évidemment dubitatif et sceptique. C'est-à-dire qu'on est en présence d'une folie moutonnière, d'une bêtise moutonnière, qui est extrêmement grave sur le fond, mais dont demain, les Israéliens sont les seuls à payer l'addition. Et avec eux, les Juifs du monde entier.
Merci Georges Bensoussan. Je rappelle
Merci
le titre
vous.
De votre ouvrage, évidemment très éclairant en cette période, Les origines du conflit israélo-arabe aux éditions Que sais-je. Je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous.
Merci.
Merci Sonia Mabrouk. Merci Georges Bensoussan. Dans un instant sur Europe 1, vos signatures du mardi, à commencer par Gaspard Proust. À tout de suite.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Gaspard Proust dans un instant sur Europe 1 à 8h30, juste après le journal permanent signé Christophe Lamarre.
La conférence de presse de la ministre déléguée aux Outre-mer attendue dans la matinée à Mayotte. Les autorités viennent de déclencher l'opération Mayotte il y a quelques heures. 400 policiers et gendarmes mobilisés contre l'immigration clandestine. Israël promet une réponse à l'attaque iranienne. Nouvelle réunion du cabinet de guerre prévue ce matin autour du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les deux premières réunions n'ont pas permis de trouver un consensus sur la nature et la force des représailles. La question de la riposte ne se pose pas, elle est inévitable. Israël n'a pas le choix. Georges Bensoussan sur Europe 1 et CNews ce matin. L'historien écarte toutefois l'hypothèse d'un affrontement direct avec l'Iran. On s'approche dangereusement d'un accident nucléaire à Zaporijjia, déclaration du chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La centrale ukrainienne cible de multiples attaques de drones depuis plusieurs jours. Moscou et Kiev s'en rejettent la responsabilité. Les quarts de finale retour de la Ligue des champions de football, Barcelone-PSG ce soir à 21h à l'aller au Parc. Les Parisiens s'étaient inclinés 3-2. Autre quart de finale à la même heure. Borussia Dortmund, Atlético de Madrid.
Merci Christophe Lamarre. La météo, Anissa Dadi, le gris domine le ciel ce mardi.
Oui, c'est un mardi automnal sur l'ensemble du pays. Après le passage de la dépression Renata hier, on a encore des résidus de cette perturbation qui nous donne des pluies assez actives entre les Pyrénées et les Alpes en passant par le Massif central. C'est le retour de la neige aujourd'hui, mardi 16 avril. La neige sur les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central à partir de 1000 mètres et sur les Pyrénées à 1600 mètres. Il n'y a qu'une zone qui aura droit au soleil aujourd'hui, c'est le pourtour méditerranéen, une journée printanière mais avec du vent mistral et tramontane jusqu'à 90 km/h. Ça souffle très fort dans le sud. Les températures, alors cet après-midi, c'est la chute libre des températures, seulement 10 degrés à Belfort, 11 à Charleville-Mézières et Annecy, 12 à Strasbourg, 14 degrés à Paris, Toulouse et Rennes, 16 pour Carcassonne et Limoges, 18 à Marseille. Hier, il faisait 27 degrés à Marseille. Hein. 18 aujourd'hui, 23 à Bastia.
Merci Anissa Haddadi. Il est 8h32 sur Europe 1. Gaspard Proust à suivre.
Chez Grand Frais, nous travaillons en direct avec plus de 1000 producteurs français comme Amandine, notre productrice salade.
Elle nous donne toujours rendez-vous à 4h du mat, mais bon, ses salades sont exceptionnelles.
Alors, t'as réussi à te lever ?
Ça pique un peu, Amandine, là.
Chez Grand Frais, nous sommes prêts à tout pour dénicher les bons producteurs et les bons produits pour vous proposer chaque jour plus de 300 fruits et légumes ultra frais. Grand Frais, sélectionneur passionné de producteurs passionnés.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est l'heure de vos signatures Europe 1 dans un quart d'heure. Le zapping politique de Dimitri Vernet. La revue de presse d'Europe 1 également signée Olivier Delagarde. Bonjour Olivier.
Bonjour mon cher Dimitri.
Dans les journaux ce matin, dites-nous.
Est-ce que vous vous souvenez de Philippe Ulysse dans Tintin ?
Ah oui, absolument, oui.
Ce savant au début de l'étoile mystérieuse. Eh bien, je vais vous parler de journaux qui nous annoncent un petit peu comme Philippe Ulysse. quasiment la fin du monde.
La fin des temps est proche.
Rendez-vous dans 5 minutes. Mais d'abord, sur Europe 1, on retrouve Gaspard Proust. Bonjour Gaspard.
Buongiorno.
Alors comment ça va ? Avez-vous passé un bon week-end ?
Ah bah week-end classique, un peu de sport, un peu de jeux de société, histoire de mettre un peu de piment en allumant les infos. Bah l'attente d'une troisième guerre mondiale.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, ce qui est dangereux, c'est qu'à force de crier au loup, à un moment, bah, on va se faire surprendre. Hein. C'est comme Clo-Clo, tu vois. Je suis sûr que le jour où il a pris sa douche, il s'est dit « Tiens, et si j'en profitais pour changer l'ampoule du plafonnier ?» C'était un peu un jour comme d'habitude. Et comme Clo-Clo, t'as l'impression que toutes les mains... Bon, il s'est trouvé une équipe en ce moment qui... Ils ont les mains qui tournent autour d'une prise. On met dedans, on met pas dedans. Est-ce qu'on met l'index, le gros orteil, le genou,
enfin... Vous voulez parler de l'attaque de l'Iran sur Israël, Gaspard ? J'imagine que vous n'avez pas plus d'infos que nous sur ce qui s'est passé.
Détrompez-vous.
Ah.
C'est pas parce qu'on est sur l'international que j'ai pas placé des sources. Mes petites souris de l'info, elles sont mondialistes.
Non, vous avez réussi à placer vos surmulots au plus haut niveau de l'État iranien.
Mais bien sûr, c'est super facile à placer.
Mais où et comment ?
Les Américains, ils placent des micros. Les Israéliens, ils passent par le cyberespace. Les Français, bon, ils ont les pigeons voyageurs. Et moi, j'ai une autre technique. Le surmulot dans le turban du Mollah. Ça s'appelle le surmola.
Vous avez placé vos souris dans le turban des Mollahs.
Ah bah ouais, tant les services secrets des EPI ne savent pas qu'ils sont déconnectés de la nature, ils ne vivent pas à Paris, mais le turban, c'est un biotope formidable pour le surmulot. Il peut s'y cacher, faire des stocks de nourriture, faire ses besoins. C'est un espace de vie formidable, hein, un turban pour un surmulot. C'est comme une roue de hamster en textile posée à plat, tu vois. Ça a l'air tout con, mais je vous jure que c'est une planque idéale. Hein. Et je peux dire qu'en ce moment, les Mollahs en chef, là, ils sont comme François Cluzet dans Les Petits Mouchoirs. Ils sont persuadés qu'il y a des fouines dans les faux plafonds de leur palais, alors qu'il y a juste une souris qui leur grignote le chèche. Hein. C'est pour ça qu'en ce moment, le Mollah, il est tendu. Il n'est pas énervé par les Israéliens ou les États-Unis, mais parce qu'il a tout le temps un bruit de couinement 2 cm au-dessus de son oreille.
Ah bon, bah, c'est... Oui.
Ouais, on m'a raconté qu'ils étaient tous en train de courir partout dans leur palais avec une hache à la main en hurlant Nikumo qui a Mickey Mouse. Alors je sais bien, les puristes vont dire. Mais c'est pas des Arabes, oui, c'est voilà. Des Perses, ils parlent le farsi, gna gna gna, ben voilà. Et ça va, je suis au courant, mais ça m'arrange pas pour la blague. Donc on est quand même dans une réalité virtuelle. Les Mollahs, tout persons qu'ils sont, ils courent quand même dans le couloir en criant Mickey Mouse. Bon, point à la ligne. D'ailleurs, on a un document exclusif sur la préparation de cette attaque par les chefs militaires iraniens. Écoutez bien, document exclusif, âme sensible s'abstenir.
Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. C'est pas ça. Je vais essayer le contraire.
Non mais Gaspard, c'est grave ce qui se passe. Sur le fond, on a quand même frôlé la catastrophe ce week-end.
Bah, faut relativiser un poil. Je veux dire, c'était pas une attaque de très haut vol.
Non, vous êtes pas sérieux.
Non mais je sais pas, Dimitri, comme moi, vous avez regardé les infos samedi soir. Bon, vous avez entendu tous les journalistes à 23h, ils étaient là. L'Iran vient de lancer une attaque en envoyant 300 drones. A priori, ils seront sur zone à 6h du matin. Bon, t'es un soldat israélien, t'as 6 heures devant toi pour ajuster ton tir. Je veux pas être désagréable, mais une attaque éclair à l'iranienne, c'est quand même plus proche d'un Paris-Perpignan en scooter que d'une prise à revers des Ardennes. Je veux dire, honnêtement, heureusement qu'on nous a prévenu que c'était une attaque militaire, parce que quand tu vois les vidéos des illuminations au-dessus de Jérusalem, on se croirait un 14 juillet qui aurait pris de l'avance. T'sais. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. Bah, en termes de dégâts, 14 juillet en France, il y en a plus. Hein. T'as plus de bagnoles cramées, 3-4 artificiers qui perdent leurs doigts et leurs mains, alors que là...
Après cette attaque, l'Iran a considéré que son opération de représailles a été menée avec succès et qu'elle avait atteint tous ses objectifs.
Il n'en faut pas beaucoup pour être content. Hein. Je suis allé voir les dégâts causés. Quand tu balances 330 drones et qu'à la fin tu cries victoire parce que t'as réussi à vitrifier un poulailler, un garage à vélo sur une base militaire, on a connu des Austerlitz plus flamboyants, Dimitri. Enfin, si ça ressemble à une victoire, alors dans ce cas-là, pourquoi pas Philippe Poutou élu l'homme le plus élégant de l'année ou Corinne Maziero castée pour la prochaine Barbie à Hollywood.
Après cette opération, l'Iran a considéré qu'on pouvait dire que l'affaire était close.
En plus, ils font les règles du jeu.
Oui.
C'est eux qui décident quand ça commence, quand ça finit. Ils sont joueurs et arbitres. C'est comme le mec issu des qualifs à Roland-Garros qui arriverait à mener Federer 3-2 dans le premier set et qui dirait à l'arbitre « Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je lui ai clairement mis une rouste à Roger. » Tu vois, ou en foot, ça serait l'équipe qui croirait encore au but en or, mais durant la partie. Hein, c'est le PSG qui mettrait un but au Barça au bout de 5 minutes et les gars, ils diraient « Bon, perso, on a déjà tout donné. Hein. » Donc, si on pouvait nous remettre la Coupe des clubs champions, nos supporters, ça leur va. Hein, franchement, 85 minutes de jeu en plus, ça serait de la gourmandise. Hein. Mais pour vérifier cette prophétie, rendez-vous ce soir. Il a mis la chanson, elle était magnifique. Quel habillage, Wolfgang.
Bah, attendez, c'est frissons ce morceau.
C'est quoi?
Bah vous qui aimez la musique classique quand
c'est
même.
Handel,
ah ouais.
Voilà. Bah voilà.
C'est inspiré de.
C'est un bah petit... Justement, c'est moins bien.
Voilà. Bah c'est un grand en dessous, forcément.
Bah forcément. Oui.
Bon bah donc vous regarderez le match ce soir finalement.
Je sais pas si j'aurai le temps.
Bon. Ouais.
Merci. Je vous ferai un débrief demain. Allez, avec merci. Mon savoir-faire sur le sujet. Je vous en prie. Continuez la matinale. On est en retard, j'espère.
Non, on est pile à l'heure.
On est pile à l'heure.
8h.
De faire du small talk maintenant. Bam.
Exactement. Non, mais gardez-en un peu sous la pédale. Pascal Praud va nous rejoindre dans un instant pour le sommaire de Pascal Praud et vous, juste après la revue de presse d'Europe 1. Olivier Delagarde.
Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Pour les vacances de Pâques, Europe 1 vous fait voyager dans le temps avec le podcast Les Voyages d'Amélia.
Oui, vous allez pouvoir embarquer en famille avec Amélia et sa grand-mère Granny pour 4 nouveaux épisodes d'aventure et de récits. Avec cette nouvelle saison, vous allez partir à la rencontre de Jean Moulin, d'Anne Frank ou encore de Louise Weiss. Les Voyages d'Amélia, c'est un podcast Europe 1 imaginé et raconté pour les enfants. Ça va vous sauver quelques heures de trajet, ça croyez-moi. C'est à écouter sur toutes vos plateformes, sur le site europe1.fr et sur l'appli Europe 1.
Il est 8h41, la revue de presse d'Europe 1. Olivier Delagarde, on commence par un gros risque de tempête.
Oui, et celle-là, Anissa ne nous en parle pas. Et pourtant, ses conséquences, si elle devait frapper la Terre, seraient un peu plus ennuyeuses qu'un coup de vent sur la pointe du rat. Il s'agit des tempêtes solaires. Et c'est Paul Molga, des Échos, qui signe ce papier passionnant et, il faut bien reconnaître, assez inquiétant. Parce que le risque est bien là. Le soleil, c'est cyclique, va entrer dans une période de forte activité tempétueuse. Les éruptions vont se multiplier et si par malheur elles s'orientaient vers la Terre, elles pourraient provoquer une sorte de blackout mondial. Panne totale des radiocommunications, plus d'Europe 1. Perte de contrôle de tous les satellites, effondrement des réseaux électriques. Tous les pans de notre société seraient touchés. Les spécialistes de la NASA affirment qu'un orage extrême pourrait mettre chaos notre civilisation. Preuve d'ailleurs que la menace est prise au sérieux. Les Américains ont mis en place un système de prévision à base d'intelligence artificielle, histoire d'avoir le temps de débrancher ce qui pourrait l'être. Dans le même but, les Européens s'apprêtent à mettre sur orbite un laboratoire spatial solaire. Lancement prévu en 2031. D'ici là, conclut le journaliste des Échos, on peut toujours croiser les doigts.
Oui, on passe à une autre grosse frayeur, alors plus individuelle celle-là.
Celle d'Eliette Abécassis, cet écrivain, cinéaste, philosophe, signe toutes les semaines une tribune dans La Croix et il se trouve que le week-end dernier, elle se trouvait à Tel Aviv. Nous étions en train de dîner au restaurant avec des amis, raconte-t-elle, soudain quelque chose s'est produit. Les gens se sont mis à regarder leur portable, des textos d'amis nous disaient de rentrer chez nous ou nous mettre à l'abri. On s'est levé, vite on a payé, on est rentré à pas rapide. On s'est calfeutré dans la pièce sécurisée qui existe désormais dans tous les appartements en Israël. Des messages annonçaient que les drones étaient partis d'Iran, ils arrivaient sur le pays. Que faire ? Prier, sans penser au pire ? Parler de quoi ? À qui ? À ceux qui en rient, à ceux qui en pleurent, à ceux qui sont fatalistes, à ceux qui paniquent. Dans ces moments, écrit-elle, même entourée, on est seul. Très beau texte à lire dans La Croix qui rappelle ces questions que pose saint Matthieu. L'histoire, on le sait, se termine bien grâce au dôme de fer et la presse s'intéresse d'ailleurs de près à ce bouclier qui, s'il n'a pas de prix, a un coût. Dans le Figaro, Maxime Dubernet de Bosque estime que l'interception des missiles et drones iraniens a coûté entre 1 milliard et 1 milliard et demi de dollars. C'est 5 ou 6 fois plus que ce qu'ont dépensé les Iraniens pour leur engin d'attaque. Les drones Shahed ne coûtent que 20 000 dollars pièce quand leur interception, elle, en coûte 150 000. Avec ces drones low cost, l'Iran peut user l'arsenal israélien, explique le journal. Le prix de la vie est donc en l'occurrence 7 fois plus cher que le prix de la mort.
Intéressant. Cette opération est peut-être aussi en train de redessiner la carte diplomatique mondiale.
Le Wall Street Journal, dont on peut lire certains articles dans l'opinion chaque matin, met effectivement en avant un aspect qu'on a peu vu dans la presse française, le soutien de certains pays arabes à Israël dans cette opération défensive. On a un peu parler de la Jordanie, mais l'Arabie Saoudite et d'autres gouvernements arabes ont aussi joué un rôle déterminant, et ce, dans le plus grand secret. En fait, explique le grand quotidien américain, grâce aux accords d'Abraham, la coopération militaire entre Israéliens et pays sunnites est désormais une réalité, mais même si, évidemment, elle doit rester confidentielle.
Allez, dans vos journaux également ce matin, des affaires de gros sous.
Et oui, on sait que la France, vieux pays catholique et communiste, adore détester l'argent. Et c'est le salaire de Carlos Tavares qui en ce moment fait débat. 36 millions d'euros l'année dernière contre 19 millions l'année précédente. Les actionnaires de Stellantis vont avoir à se prononcer sur le sujet en Assemblée Générale aujourd'hui et ce n'est pas complètement gagné. Dans Le Parisien, d'abord, le secrétaire général de la CGT de l'usine de Sochaux estime que c'est scandaleux. À la une des Échos ensuite, la parole est à la Défense, sous le titre « L'incroyable décennie Tavares ». Julien Dupont-Calbeau et Guillaume Guichard nous racontent les 10 ans durant lesquels ce grand patron sera parvenu à ressusciter le cadavre PSA et le transformer en un Stellantis aux 14 marques, toutes plus rentables les unes que les autres. Reste deux questions. La première, comment va réagir Macron? C'est Le Parisien qui rappelle qu'il y a 2 ans déjà, le président de la République avait dénoncé le montant choquant et excessif de la rémunération du patron de Stellantis. Et puis, dernière question, que faire avec 36 millions d'euros? J'ai fait le calcul, vous pouvez vous acheter 150 000 drones iraniens Shahed, mais ce n'est pas le choix de Tavares. Avec cet argent, confiait-il dernièrement à Challenge, j'investis pour mes petits-enfants dans les oliviers et les vignes au Portugal. Mais on va terminer en Espagne ce matin, où le salaire des footballeurs fait beaucoup moins débat que celui des grands patrons, parce que ce soir, donc, à Barcelone, ce sera l'exploit ou le cercueil pour le PSG, battu 3-2 à l'aller Mbappé. Ses petits amis vont devoir être nettement plus inspirés que la semaine dernière pour vaincre le Barça. Et le conseil claque à la une de l'équipe, donnez tout, comme dirait le Philippulus de Tintin, donnez tout, comme si demain c'était la fin du monde.
La revue de presse d'Europe 1, merci beaucoup Olivier Delagarde. 8h47 sur Europe 1, vous connaissez le rendez-vous, c'est de 11h à 13h tous les jours, Pascal Praud et vous. Le débat, c'est vous qui le menez avec Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour, et ce qui est amusant, c'est que les salaires des grands patrons posent problème, alors oui, que ceux des footballeurs, Mbappé gagne 2 fois ce que gagne Tavares, 2 fois. Il gagne 70 millions d'euros par an.
Ah, c'est 70 millions ?
Oui, 72.
Ah oui, c'est ça, vous avez raison. Oui, 6 millions par mois.
Personne ne conteste ça. Et ça serait intéressant de savoir pourquoi. Et je tenterai peut-être tout à l'heure une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut.
Ah oui ? Ah, mais vous ne voulez pas nous en faire part un petit peu ? On a le temps ce matin.
C'est vrai ?
Oui.
Je pense qu'au fond, le sport vous renvoie à votre niveau. Donc personne ne conteste que vous ne soyez pas Mbappé.
Ah oui. On voit qu'il est bien meilleur que nous, c'est ça que vous dites.
Exactement, vous acceptez, le sport vous renvoie. Vous dites, je connais personne qui dit je suis Mbappé, j'aurais pu être Mbappé, etc. Oui. L'entreprise, les critères sont toujours plus flous, moins objectifs. Au fond, personne pense que Tavares est à l'entreprise qu'Mbappé est au football.
C'est vrai que la performance d'un grand patron, elle est moins spectaculaire.
Tout le monde se dit, c'est interchangeable, un autre ferait aussi bien. Eh bien non, justement.
Oui, c'est intéressant.
En fait, Tavares, c'est Mbappé.
Oui,
donc
absolument.
Effectivement, la rareté, l'excellence, tout le monde n'est pas de la même manière en sport. Et souvent, moi, j'adorerais que les règles du sport soient appliquées à la vie civile, si j'ose dire. Parce que la sélection, tout ça, je trouve ça très bien, moi, le sport, c'est objectif, le résultat, c'est parfait.
Bon, alors sur le fond, 36 millions et demi pour le patron de Stellantis, choquant, pas choquant. En tout cas, vous pourrez vous prononcer.
Ça veut rien dire, en fait, choquant, pas choquant. Ou tu acceptes une société qui est comme ça, en fait, c'est pour tout le monde pareil.
Oui.
Si c'est choquant pour Tavares, c'est choquant pour Mbappé, c'est ça que je veux dire.
Autre sujet dont on pourrait débattre avec les auditeurs d'Europe
1. On pourra parler justement du PSG ce soir, parce que moi j'espère vraiment qu'ils vont gagner.
Oui. Heureusement.
Bien sûr. Oui, non mais je suis d'accord. Ah ouais, il y a des gens parfois qui ont des joueurs mauvais. Vous savez, on est à Paris,
Les Marseillais,
ce soir, je ne suis pas sûr qu'à Besançon, à Strasbourg, à Marseille, etc., les gens, ils sont...
Oh, mais rappelez-vous, Pascal, le PSG avait atteint la finale il y a 3-4 ans, là, tout le monde avait regardé le match.
Vous pensez que tous les gens nous aiment à Paris? D'abord, il y a très peu de Parisiens à Paris, on est tous venus de nos provinces.
Absolument,
mais c'est vrai que Paris, parfois,
un club français en demi-finale de Ligue des Champions.
Mais je suis d'accord. Donc j'espère qu'ils vont gagner. Il y a une autre info qui m'a vraiment surprise. Le nombre de morts sur les routes a bondi au mois de mars, plus 31% par rapport à mars 2023. 254 personnes sont décédées. Le début de l'année est inquiétant, la mortalité routière a augmenté alors qu'elle était en baisse depuis de nombreuses années. Donc voilà, et puis comme vous le savez, on pourra parler de sujets un peu plus légers. Avez-vous des problèmes avec vos voisins, par exemple? 9 Français sur 10 reconnaissent avoir déjà été victime d'un trouble de voisinage. Je ne sais pas si vous avez des voisins dans votre...
J'ai des voisins troublants, effectivement.
Particuliers ou pas, ou si vous avez un...
Mais j'en ai d'autres qui sont formidables.
C'est vrai? Oui. C'est quoi un voisin troublant?
Ben ceux qui créent du trouble, trouble du voisinage. Ouais.
Ils sont en haut, à côté ou en dessous?
Ils sont... ça va être trop... Après, ils vont se sentir visés.
Je pense en plus qu'ils écoutent un rapport.
Remarque, vous ne les ennuyez pas trop le matin à partir de 4 ou 5 heures du matin.
Ah oui, non, c'est sûr que...
Vous n'êtes pas là. Mais ils font du bruit?
Non, pas du tout. Ils sont charmants, honnêtement. Et tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil autour de chez moi. Et vous, Gaspard, non, je sais pas. Vous êtes un bon voisin, vous.
Oui.
Oui. Ne pas être si, mais la musique classique est un peu fort.
Excusez-nous de vous réveiller, Gaspard.
Je vous en prie, je vais me rendormir.
01 80 20 39 21 numéro non surtaxé pour joindre Pascal Pro tous les jours entre 11h et 13h sur Europe 1.
Eh ben merci Pascal, on vous retrouve aussi sur Europe 1 dans 10 minutes lors des pros.
Avec plaisir.
Sur Europe 1 et sur CNews, 8h50.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et voici votre zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous. Anissa, Dimitri, bienvenue dans la brigade du zapping politique. Enfilez vite votre casquette puisque l'agent PS Jérôme Guedge sur Sud Radio nous envoie sur une nouvelle mission. Il semble avoir repéré une affiche de meeting suspecte aux alentours de Lille.
En bas à droite de cette affiche, il y a un petit logo où il y a écrit Palestine libre. Voilà. Et Palestine libre, il y a une carte. En réalité, une carte d'Israël avec écrit dessus Palestine libre. Moi, je ne suis pas parano, mais quand même.
Oui, quand même, effectivement. Qui est-ce qu'on pourrait appeler pour avoir des informations? Tiens, ouais, je ne sais pas du tout, moi.
Président de la région, peut-être.
Ah oui, oui, très bien, Xavier Bertrand. Il va peut-être nous donner des informations. Je l'appelle. Ouais.
Vous avez Monsieur Mélenchon qui va venir tenir une conférence organisée, tenez-vous bien, par Libre Palestine, et avec un logo qui est la négation de l'existence d'Israël dans ses frontières de 1948. Non mais au bout d'un moment, il faut quand même se réveiller, quoi.
La France insoumise, bon, forcément, bon, on aurait dû s'en douter. Hein. Dossier classé, et comme d'habitude, bien, c'est une nouvelle polémique pour la France insoumise. Allez, on change de sujet, direction Olympie, en Grèce, pour... Eh bien oui, c'est aujourd'hui que la flamme olympique va être allumée avant de débarquer, vous le savez, en France le 8 mai prochain. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, notre très tactile président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé hier sur BFM qu'il ne la toucherait pas, il ne la portera pas, enfin, sauf si on l'invite à le faire. Hein.
Donc moi, j'ai pas vocation... On verra si quelqu'un m'invite à la porter, mais c'est pas prévu au programme.
Vous avez vu, là, il a envie, en vrai, quand même, le président. Il veut la porter, cette flamme. Mais bon, je vais doucher ses espoirs, malheureusement. Le CIO le dit. Oui, les personnalités politiques en activité ne peuvent pas porter la flamme olympique.
Pour quelle raison?
Et parce qu'ils sont en activité, et qu'ils sont politiques, Dimitri.
Et que c'est dans la règle.
Voilà. D'accord, bah, c'est bon, bah, très bien, je m'incline.
Désolé, Emmanuel.
La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
Mais donc vous croyez que si moi je postule, si je dis que ça m'intéresserait, peut-être que ça pourrait tomber dessus.
Vous. Oui.
Bien sûr.
Non, bon, non, Koh-Lanta, vous entendez la musique, ça marche très bien quand même en politique. Notamment pour la présidentielle de 2027. À la fin, il n'en restera qu'un. Et pourquoi pas Gabi? Avec Gabriel Attal, le Premier ministre, il en a parlé à la télévision canadienne.
Dans le débat politique français, vous avez beaucoup de politiques, y compris dans la majorité, qui parlent de 2027, qui se positionnent pour 2027. Il y en a même dans mon gouvernement, et je le respecte, voilà. Mais c'est pas mon cas.
C'est pas son cas, donc Gabi ne veut pas se positionner.
Moi, je suis le seul qui a jamais parlé de 2027, qui s'est jamais positionné, et pourtant, j'ai l'impression d'être celui à qui on pose le plus la question parfois.
Ah ! Oh, bah le boulard ! Oh, bah dis donc le boulard ! Attention, Gabi, hein. La tribu bleu-blanc-rouge pourrait éliminer plus vite que prévu.
Et à la fin, il n'en restera qu'un.
Merci beaucoup Dimitri Vernet.
Ça marche bien,
Koh-Lanta. Oui. Non, c'est toujours intéressant d'entendre les interviews de président de la République, de Premier ministre à l'étranger.
À l'étranger, bah oui.
Disent des choses qu'ils ne diraient pas forcément c'est sur vrai. Le territoire national. Et des questions aussi qui leur sont posées, qui ne sont pas forcément les mêmes que...
Bah notamment 2027, hein, voilà. Attal, jamais en France.
Oui, vous avez raison. Y aurait-il un tabou autour de cette question chez les journalistes politiques français? Merci beaucoup Dimitri Vernet. 8h54, vous avez rendez-vous aussi avec sur Europe 1 à 9h30. Culture Média, Jean-Pierre Foucault et vos invités ce matin, Anissa Dadi.
À partir de 9h30, l'invité média s'appelle Bruno Ourcade. C'est le plus grand gagnant des jeux télé. Il a gagné plus de 700 000 euros en argent et 300 000 euros de cadeaux. En tout, il a la tête d'une fortune d'un million d'euros. Les 12 coups de midi, plus grand gagnant de l'histoire des jeux télé. Il a 9 voitures, pour vous dire. Mais on va en parler en détail avec lui, parce qu'il sort un livre, Moi millionnaire, comment je suis devenu le plus grand gagnant des jeux télé. Et puis l'invité culture de 10h à 11h, il s'appelle Agustin Galiana. Il est espagnol, on l'a vu dans de nombreuses séries télé, Ici tout commence, ou encore Clem.
Vous voyez Julio Iglesias ou son fils, bon, c'est le même genre un peu.
Et il sort un album, Enamorado,
Il est sorti il y a quelques jours et il va chanter en live dans le studio Coluche sur Europe 1, Augustine Galliana.
Il est dans quel studio, notre cher millionnaire? Juste une information que je demande comme ça.
Le studio d'à côté.
Studio Coluche, très bien, je note.
Merci beaucoup, chers auditeurs. Dans un instant, l'info continue, l'heure des pros sur Europe 1. Bonne journée à vous.